Europe Matin Weekend.
Bonjour, bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin. Je vous espère en pleine forme. On est le samedi 29 janvier déjà. Déjà le 29 janvier, c'est fou. Il y a encore, c'était Noël. Et puis on souhaitait la bonne année. Ça filoche vraiment. Hein.
Et c'est le temps qui court.
Le temps qui court. C'est vrai qu'on se dit qu'on n'y arrivera pas, qu'on manque de temps pour soi, pour faire, pour les autres.
Je n'aurai pas le temps de tout faire.
Allez, profitons de chaque instant, de ce week-end, des gens qu'on aime. Le temps passe et on sait ce qu'on ne veut plus.
Mais plus il passe et plus je l'aime, ce temps qui joue et qui m'entraîne vers celui que je voulais être, avec ses rêves plein la tête. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passé me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître. Déjà, il te donnait, il te reprend.
Allez, on est ensemble jusqu'à 8h et ça c'est une vraie chance. Merci d'être à l'écoute. Europe 1, il est 6h. Bon réveil à tous.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
Et la première édition est présentée par Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. C'est la fin de 2 semaines de suspense. Le bac est reporté. Soulagement, on l'entendra dans les lycées.
Toujours plus de suicides chez les policiers. Reportage dans ce journal avec les jeunes gardiens de la paix de Roubaix.
Et puis du sport, la déception des handballeurs français éliminés d'un cheveu, d'un but à l'Euro hier soir.
Au sommaire de la prochaine demi-heure, les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet à Vincennes aujourd'hui. Des réductions dans les magasins qui n'en sont pas vraiment. On en parle à 6h20. On verra avec mon invité Lionel Mauguin du magazine 60 millions de consommateurs. Mélanie Gomez et Julia Vignali nous donneront également des conseils pour devenir un expert en apprentissage. Mais d'abord, la tendance météo. Avec vous, comment allez-vous, chère Valérie Darmon ?
Je vais bien. Et moi aussi, je vis avec le temps, un autre temps.
Oui, c'est ça.
Même. Voilà. Et donc, ce matin, je vous dis, attention aux chaussées glissantes. Entre l'Allier, la Loire, les hauteurs des Vosges et le Morvan, sous un ciel gris toujours tenace sur les deux tiers nord, et un beau temps et un soleil d'hiver au sud, d'ouest en est.
Allez, le détail météo dans 7 minutes. Lénaïque, les lycéens sont désormais fixés, le bac c'est pour mi-mai.
Au lieu de mars, autrement dit à partir de maintenant, les futurs bacheliers peuvent potasser jusqu'au 11, 12 et 13 mai. D'ailleurs, que pense-t-il de ce report ? Eh bien Wilfried de Villers est allé, il a fait la sortie d'un lycée parisien.
3 mois de plus pour réviser, dès les annonces du ministre de l'Éducation nationale, Thomas, en terminale ES, a pu souffler.
Comme c'est reporté à mai, j'aurai les vacances d'avril pour bien réviser, etc. Donc, moi, honnêtement, ça m'arrange.
Plus de temps pour se préparer, c'est vrai, mais le report de ces épreuves de spécialité s'accompagne d'un agenda plus chargé à la fin de l'année, avec les épreuves générales qui arriveront juste après les spécialités. Et ça inquiète Karim, il est en filière scientifique.
Nous, on a les épreuves pour mathématiques et physique-chimie pour ceux qui ont un bac scientifique. Donc, on n'a pas assez de temps avec clairement le grand oral à préparer, philo à préparer, nos vœux à préparer.
Là où ça coince, c'est aussi au niveau de Parcoursup. Les notes des épreuves de spécialité ne seront visiblement pas prises en compte. Théo misait pourtant là-dessus.
Nous, on espérait avoir les notes du bac pour Parcoursup. Il y aura des problèmes pour la suite, après la terminale.
Si l'agenda des épreuves est bouleversé, le programme restera le même que celui du mois de mars, a promis Jean-Michel Blanquer.
Et Wilfried de Villers pour Europe 1.
Le nombre de nouveaux cas de Covid en baisse en France pour le 3e jour└ consécutif.
Oui, 353 000, c'est-à-dire 11% de moins que la semaine passée. Dans les hôpitaux, la situation semble aussi se stabiliser. Il y a moins de monde en soins critiques. Et en Outre-mer, par ailleurs, l'arrivée du vaccin Novavax sans ARN messager ne change rien. Voilà ce qu'a déclaré Frédéric Agui, qui est président en Guyane de l'association Santé Respect pour tous. Le problème, selon lui, ce n'est pas le vaccin en lui-même, mais bien l'obligation vaccinale.
À présent, un chiffre qui fait froid dans le dos. Depuis le début de l'année, 10 policiers et un gendarme se sont donné la mort.
Oui, comme jeudi, où un agent administratif du commissariat de Rennes de 35 ans qui s'est jeté du toit. Et c'est dans ce contexte que Gérald Darmanin a présidé hier la cérémonie de sortie de la promotion des gardiens de la paix. Reportage à Roubaix de Maximilien Carlier.
Casquette de la police nationale vissée sur la tête, Joris, 28 ans, est originaire de Rouen. Son service, il va le commencer à Verdun dans la Meuse, une passion qui le ronge depuis ses 16 ans. Alors bien sûr, le malaise dans la police, il en est conscient.
On y pense tous les jours, surtout en ce moment avec l'actualité. On essaye de se dire quelle est la solution pour éviter ce mal-être. Malheureusement, il y a des services où la hiérarchie ne soutient pas et même enfonce certains collègues. Mais justement, c'est important d'avoir des chefs à qui se confier et trouver du soutien.
Un soutien qui peut venir de la famille, selon lui. Des psychologues forment attendent également ces jeunes policiers. Amélia, gardien de la paix stagiaire.
On a vu différentes psys. Après, on est à l'abri de rien. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais on essaie de prendre un maximum de précautions et d'en parler, c'est très important.
Car derrière chaque uniforme, il y a des femmes et des hommes, souligne le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
J'attends de vous que soyez à l'écoute de vos collègues, de celui qui ne va pas bien dans sa vie personnelle. Beaucoup de policiers connaissent dans leur carrière ces moments de doute.
Et votre devoir, ça ne sera pas d'abord de donner des ordres à vos subordonnés, insiste-t-il, mais de les écouter, car vous serez surtout des managers. Roubaix, Maximilien Carlier, Europe 1.
À l'étranger, Joe Biden confirme qu'il va envoyer un petit nombre de soldats en Europe de l'Est prochainement, face au risque d'invasion russe en Ukraine. Les États-Unis ont déjà placé 8500 militaires en alerte pour renforcer l'OTAN. Hier, lors de leur entretien, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, eux, ont convenu de la nécessité, je cite, d'une désescalade.
Les Nike retour en France avec un week-end très politique, à gauche notamment.
Oui, parce qu'on va connaître le résultat de la primaire populaire. La principale tête d'affiche, Christiane Taubira, indique que si elle ne l'emporte pas, elle ralliera bien la campagne du vainqueur. Quant à Yannick Jadot, il présente son programme à Lyon. Et puis de l'autre côté de l'échiquier politique, Marine Le Pen revoit à Madrid ses alliés européens. Alors que le clan familial se déchire, la candidate du Rassemblement national a jugé violent que sa nièce Marion Maréchal songe à rejoindre son rival Éric Zemmour, qui lui sera dans la Loire cette semaine, ce week-end.
C'est une première chez Orange. Une femme arrive à la tête de la société.
Oui, Christelle Edman, nommée hier par le conseil d'administration du numéro 1 français des télécoms. La future directrice générale va succéder à Stéphane Richard, qui avait annoncé à son départ après sa condamnation dans l'affaire Tapie Crédit Lyonnais. Aurélien Fleureau, pour elle, les chantiers sont déjà nombreux sur la table.
Oui, elle devra d'abord impulser la transformation de l'entreprise, attirer des talents, former les salariés à de nouveaux métiers. D'ailleurs, sur le plan social, toujours très sensible chez Orange, un accord intergénérationnel a été trouvé fin 2021 pour encadrer la réduction des effectifs du groupe. Il y aura des départs anticipés, mais également 8000 recrutements d'ici 2024, dont la moitié aura moins de 30 ans. Autre dossier sensible, la fin annoncée du réseau cuivre, remplacé par la fibre, mais 20 millions de Français, et notamment des entreprises, dépendent encore de ce réseau historique. Il faudra opérer la bascule à partir de 2023. Parmi les urgences, Christelle Edman trouvera sur son bureau le dossier Espagne, deuxième plus gros marché d'Orange après la France, et où les résultats ont été très mauvais ces derniers mois, tant la concurrence low cost a gagné du terrain. Il lui faudra aussi clarifier le positionnement d'Orange Bank, 1 600 000 clients, mais l'activité ne décolle pas réellement 5 ans après son lancement. Enfin, enjeu majeur des prochaines années, la cybersécurité, la filiale Orange Cyberdéfense est considérée comme une pépite. Son entrée en bourse a été à l'étude. La nouvelle patronne devra rapidement s'y pencher.
Aurélien Fleureau pour Europe 1. Je précise que Christelle Edman prend ses fonctions le 4 avril.
Les sports à présent, les Nègres, vous avez vu la une de l'équipe ?
Oui.
L'Euro, voilà.
Voilà, malheureux, c'est pas
tristesse
mal.
Pour les Bleus à l'Euro, bien sûr, de handball.
Oui, 33-34 face à la Suède, un tout petit but de retard. Et voilà les champions olympiques français privés d'une finale. Écoutez la déception de Valentin Porte.
Bah, ça fait mal, hein. Vu la physionomie du match, ça fait mal. Évidemment, ça n'a pas été notre meilleur match en défense. On prend beaucoup trop de buts. Ce que je retiens, c'est déjà mon erreur à la fin. Je prends un carton rouge et je lâche l'équipe au moment où on est bien et ça fait mal. Et derrière, je suis vraiment déçu pour les gars parce qu'on donne tout ce qu'on a et en une minute, on a failli faire le retard et arracher une prolongation. Honnêtement, je ne sais pas, je suis loin, mais j'ai l'impression qu'on peut... On peut avoir un petit pénalty à la fin, je sais pas, il faudrait revoir, mais je suis déçu parce qu'on méritait quand même avec ce qu'on a montré en deuxième mi-temps d'aller chercher au moins une prolongation pour continuer à espérer.
Voilà la déception des handballeurs français. Côté foot, eh bien c'est Nantes qui ira en finale, en quart de finale de la Coupe de France après la victoire 2-0 hier soir à la Beaujoire, c'était face à Brest.
Merci, c'était le journal de Lénaïque Monnier.
À tout à l'heure.
Le temps de votre samedi, Valérie Darmon, grisaille partout on va dire, sauf sur le sud, il y a du soleil.
Oui. Sur un petit tiers sud. Mais c'est vrai que le couvercle nuageux se maintient encore sur les deux tiers nord. Mais pas pour toujours, parce que demain, le nord de la Seine va pouvoir profiter de nouveau du ciel bleu. Tout de même, on l'attendait depuis un petit moment. En attendant, entre Metz et Auxerre, ce matin, on a quelques faibles pluies, surtout des pluies verglaçantes sur l'Allier, la Loire, le Morvan et les hauteurs des Vosges. Ces pluies verglaçantes qui vont se maintenir jusque dans l'après-midi, hein, de Besançon à Nevers.
Prudence.
Tandis,
hein.
Oui, prudence, surtout ce matin. Et puis la bruine, elle va continuer de toucher localement la moitié nord. On a aussi du vent qui souffle à 70 km/h de la Haute-Normandie aux Hauts-de-France. Et puis ce soleil qui brille, soleil d'hiver, sur un petit tiers sud avec des températures contrastées. Actuellement, 12 à Perpignan et au même moment, moins 1 à Strasbourg.
Merci beaucoup Valérie, on se donne rendez-vous à 6h30. Hein. Allez, dans un instant, on va parler de nous, de vous et de l'apprentissage. Et puis à 6h20, tous les samedis, la question conso ce matin, attention aux arnaques. comment lire les étiquettes, les rabais, les promotions que vous proposent vos supermarchés. Mais avant cela, c'est l'heure des pronostics. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Thierry. Avant le grand rendez-vous de demain avec le Prix d'Amérique, c'est un quintet d'un très bon niveau qui nous est proposé cet après-midi à Vincennes avec le Prix du Luxembourg. Et parmi les 16 partants qui devront parcourir la distance de 2100 mètres, il est impératif de faire confiance aux chevaux s'élançant en première ligne. Derrière l'autostart, le mode de départ de ce quintet, avec les numéros 6, Élite Beaufour, qui reste sur deux faciles victoires à Vincennes et qui, d'après son entraîneur-driver Jean-Michel Bazir, possède assurément la première chance de la course. 5, Feliciano, souvent malheureux cet hiver à Vincennes dans les épreuves préparatoires au Prix d'Amérique, mais qui trouve ici des conditions de course idéales pour se réhabiliter. 3, Alcoy, en regain de forme après une baisse de régime en fin d'été. Et 1, Éclat de gloire, préparé de longue date pour cet objectif. Derrière ces 4 priorités, je vous propose Missile Hill, le numéro 10, un trotteur suédois visiblement doué, dont la première tentative à Vincennes n'est vraiment pas passée inaperçue, avec Express Jet, le numéro 4, probant 4e du Prix de Belgique, à l'issue d'une fin de course annonciatrice d'une très grande performance dès cet après-midi. Enfin, les numéros 7, Fakir du Loro, et 2, Gareth Boko, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 6, 5, 3, As, 10, 4, 7 et 2.
Merci beaucoup Thierry Léger.
Europe 1, 11h30, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
6h11 tous les week-ends à cette heure-ci, les meilleurs moments de l'émission bien fait pour vous en semaine du lundi au vendredi. Mélanie Gomez et Julia Vignali recevaient cette semaine Guillaume, il est super éco sur YouTube où il donne ses conseils pour mieux apprendre.
Alors on va voir comment devenir un expert en apprentissage avec vous, mais déjà vous, comment vous est venue cette idée justement et l'idée de vouloir tout apprendre comme ça précisément?
Bah, c'est Matrix en fait, la première fois que j'ai vu le film et que j'ai vu que Neo pouvait acquérir plein de compétences en quelques secondes avec une disquette. En fait, j'ai eu le déclencheur, je me suis dit, en fait, c'est ça le vrai super pouvoir, c'est de pouvoir tout apprendre, parce que ça donne une opportunité, en fait, qui est juste infinie, et que, bah, on peut devenir fort en karaté, fort en kung-fu, enfin, il y a un truc qui est extrêmement jouissif. Après le passage à l'acte pour faire ma chaîne et tout ça, il y a eu un peu de temps, mais en tout cas, je sais que le point de départ, c'était quand même Matrix, quoi.
Alors, dans votre guide ultime pour tout apprendre, l'un de vos conseils, c'est d'oublier ce que l'on sait sur l'apprentissage. Le système scolaire, par exemple, n'est pas le bon pour développer ses capacités?
En fait, dans le système scolaire, il y a plein de choses très bien, notamment pour voilà, avoir des connaissances, mais pour les compétences, c'est un peu différent. Il n'y a pas vraiment l'aspect pour compétences. C'est-à-dire qu'on va apprendre toutes les dates d'histoire, les théorèmes de Pythagore, comme on disait, mais on ne va pas forcément l'utiliser. Et ce qui manque un peu, c'est l'aspect compétences. Par exemple, bah, débloquer, je ne sais pas, le lancer franc basket, le Rubik's Cube. Il n'y a pas de cours comme ça à l'école, c'est peut-être normal, mais moi, je trouverais ça cool en fait, qu'il y ait ça, parce que ça permettrait de
peut-être découvrir... à apprendre.
Ouais, ça permettrait d'apprendre à apprendre, d'avoir des passions peut-être qui se créent plus tôt. Au lieu d'attendre 10 ans, bah on peut démarrer tout de suite à faire, par exemple pour moi, de la vidéo. J'aurais bien aimé pouvoir faire des cours plus tôt de vidéo. Donc il y a ça qui manque. Il y a aussi l'aspect effectivement d'apprendre à apprendre. Il n'y a pas de cours sur comment mémoriser efficacement. En fait, on nous dit juste, bah, vous allez relire votre cours, vous faites des fiches, vous répétez, puis ça va rentrer. Au final, il n'y a pas ce truc-là vraiment de qu'est-ce qu'on peut faire autrement pour mieux retenir.
Oui, donc puis il y a des gens chez qui ça marche, et puis des gens chez qui ça marche pas très bien.
Ça marche, on va dire, à peu près chez tout le monde, mais ça va pas être retenu sur le long terme. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai aucun souvenir de mes cours d'histoire, à part les trucs un peu marquants. Mais globalement,
moi, c'est pareil. Pourtant, je les apprenais très bien.
Oui, voilà.
Moi, j'apprenais par cœur, mais il m'en reste rien.
Il manque un peu ce truc-là pédagogique, on va dire.
Alors vous, votre première connaissance a été d'apprendre à siffler avec les doigts en 6 heures. Ça, j'adore, parce que moi, je rêve de savoir faire ça, même si c'est totalement inutile. Quoique, si j'avais un chien, je pourrais le rappeler.
On n'a pas 6 heures là.
On n'a pas 6 heures, mais en gros, est-ce que vous pouvez nous les grandes lignes de la méthode pour apprendre à siffler en 6 heures?
La première astuce, ça va être de se laver les mains quand même.
Ah, c'est pas mal.
Voilà.
Okay.
Ensuite, ce qu'on peut faire, moi je le fais avec deux doigts. Mm-hmm. Donc l'idée, c'est de faire un peu un triangle avec ces deux doigts. Et ensuite, on va les placer sous la langue.
Donc, on place les deux doigts en forme de triangle, entre guillemets, sous la langue.
Il faut bien que ça se touche. Et en fait, la langue, elle va se recroqueviller.
La langue va se recroqueviller
vers l'arrière. Ouais. Ensuite, on ferme la bouche. Et ensuite, on va faire un petit souffle. Et l'idée, c'est que le souffle, il doit passer au milieu.
Ça, c'est vous, ça marche? Julien, nous, on bave, c'est tout ce qu'on fait.
En fait, voilà, le truc, c'est que vous allez beaucoup baver pendant beaucoup de temps avant d'y arriver. Mais c'est, en fait, ça commence comme ça. Hein. Moi, au début, bon. Je me suis bavé sur les doigts pendant 5 heures. Et puis,
Alors, quand on apprend, on passe par différentes étapes émotionnelles. Ouais. Alors, lesquelles ?
Pour l'instant, nous, on est dans l'étape, je ne saurais jamais siffler avec mes doigts.
Moi, je suis dans l'étape déception.
Ça démarre par la curiosité, je pense, ce truc-là de vouloir apprendre. Mm-hmm. Après, il y a les premiers résultats, comme vous avez eu
tout à l'heure.
Il y a un peu d'excitation, de se dire, je suis en train d'y arriver. Puis quand on réussit, il y a vraiment ce bonheur qui est ouais, vraiment énorme.
On n'y a pas accédé.
Et puis, petit à petit, on va commencer à avoir des doutes parce que ça va moins marcher, ça, on ne comprend pas. Donc, il y a le doute. Ensuite, il y a un peu de déprime. Ça peut vraiment passer des fois par une semaine, deux semaines ou juste une heure. Il y a une phase de déprime. Et puis, à force de trouver, de chercher des solutions, on va avoir un peu de soulagement et on va de nouveau refaire la course, c'est-à-dire excitation, bonheur, doute. En fait, c'est des montagnes russes, les émotions liées à l'apprentissage. C'est que ça fait que descendre et que remonter tout le temps. Quoi.
Alors, on entend souvent des gens dire, on en a entendu chez Clément tout à l'heure dans son micro-trottoir, mais moi, j'ai une mémoire visuelle, il faut que je regarde les choses tant de fois ou que je me fasse des jeux de mots. Enfin bref, parlons de la mémoire visuelle. À quoi ça correspond ? On a tous, en tout cas, une dominante d'apprentissage, que ce soit auditive, visuelle ou autre chose ?
Normalement, on a tous une dominance. Moi, je dirais qu'on a tous une dominance visuelle parce que nos ancêtres, quand ils chassaient à la préhistoire, ils avaient besoin de repérer les choses visuellement. Donc, on est majoritairement visuel, mais il y a quand même des gens qui se disent auditifs, notamment dans la musique et tout. Donc, on a des prédominances. Maintenant, le but, c'est de réussir à travailler avec les trois. Donc, il y a aussi kinesthésique.
Ça veut dire quoi exactement ?
Alors, par exemple, moi, quand j'apprends quelque chose, si on me le dit par l'oral, je retiens rien. Mm-hmm. Donc, on peut me le montrer, donc c'est du visuel. Mais le mieux pour moi, c'est vraiment de me mettre dans la pratique directement. Donc, par exemple, si je veux apprendre à lancer un ballon de basket, je vais tout de suite être sur la sensation. Donc, la sensation du ballon, la sensation de comment ça fait quand je le lance. Donc, je préfère être dans le moment et dans
le mouvement.
Ouais, dans le mouvement, en fait.
D'accord. Alors, moi, j'adorerais apprendre plein de nouvelles choses comme vous. Siffler, on verra. J'essaierai dès ce soir. Je vais prendre 6 heures comme ça de sommeil, peut-être les amputer pour apprendre à siffler. Mais bref, à même apprendre autre chose, les échecs. J'aimerais apprendre des langues étrangères. Mais je me dis juste, j'ai pas le temps d'apprendre, en fait, dans une vie bien remplie. À la fois professionnelle et de famille. À quel moment on a le temps d'apprendre, en fait ?
Il y a plusieurs stratégies. Moi, j'ai une stratégie qui était d'apprendre dans les moments de temps mort. Donc, par exemple, le métro, je passe 40 minutes dans le métro, je peux faire du Rubik's Cube, je peux faire ça pendant une salle d'attente pour le médecin. Il y a toujours du temps un peu mort dans
la
journée. Ensuite, il y a un truc qui est hyper important, c'est le temps qu'on passe sur le téléphone. C'est 3h30 en moyenne par jour. Moi, c'est 6h parfois, clairement. Mais du coup, il suffit d'enlever une demi-heure, ça nous libère une demi-heure. Et en fait, une demi-heure, ça suffit pour pratiquer. Moi, ce que je dis, c'est que c'est la régularité la plus importante. Donc en fait, si vous voulez dédier du temps pour un apprentissage, c'est un choix. Donc vous décidez de ne pas le mettre sur autre chose qui est inutile, comme le téléphone ou ce genre de choses.
Bien fait pour vous, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
6h17, l'Info Express, Léna Hickmonnier.
Un policier recherché après la découverte du cadavre d'une femme dans son appartement du 19e arrondissement à Paris. L'homme n'a pas pris son service au Blanc-Mesnil, c'est ce qui a poussé ses collègues à se rendre chez lui. Un périmètre de sécurité a été installé dans le quartier. Un peu de rab pour réviser, les épreuves de spécialité du bac sont reportées à la mi-mai. Une moyenne de plusieurs trimestres va par ailleurs remplacer ces épreuves dans la plateforme d'admission Parcoursup. Vous vous souvenez peut-être du roi des tigres, la star d'une série documentaire Netflix. Eh bien, Joe Exotic va rester en prison. Ce patron de zoo n'a pas convaincu la justice américaine de le libérer. Il a été coupé d'une nouvelle peine de 21 ans de prison pour tentative de meurtre. Et puis les confidences du vainqueur du Tour de France ce matin, Egan Bernal, victime d'un grave accident cette semaine. Il explique avoir été à deux doigts de perdre la vie et d'avoir frôlé la paraplégie. Il a heurté un bus mercredi à l'entraînement.
Merci Lénaïque, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Dans un instant, remise, rabais dans vos grandes surfaces. Attention aux arnaques, on en parle avec Lionel Mauguin de 60 millions de consommateurs. C'est votre matinale week-end, on parle de vous. À tout de suite.
Bonjour, c'est Isabelle Morizet.
Europe 1.
Ce n'est pas parce que les choses sont invisibles qu'elles n'existent pas. Je reçois l'un des plus grands mentalistes au monde, Victor Vincent, dont l'art est de faire de la magie avec les forces de l'esprit. Après cette émission, vous croirez en son pouvoir. Victor Vincent et moi, on vous attend donc tout à l'heure, à partir de 13h, sur Europe 1, bien sûr.
C'est l'anniversaire de tous vos projets avec Caséo. Et on a prévu plein de cadeaux. Au programme, jusqu'à moins 40% sur vos projets cuisine, menuiserie et véranda. Et même une pergola bioclimatique à gagner. Alors, un nouveau projet avec Caséo ?
Caséo, pour un projet bien encadré.
Conditions et règlements sur caseo-maison.com.
Les enfants âgés de 5 à 11 ans peuvent se faire vacciner contre le Covid-19 pour se protéger et protéger les autres. Les enfants peuvent se faire vacciner en centre de vaccination ou chez un médecin, un pédiatre, un pharmacien, un infirmier ou une sage-femme. N'attendez pas pour vous renseigner. Vous pouvez prendre rendez-vous chez un professionnel de santé près de chez vous ou sur www.sante.fr. Tous vaccinés, tous protégés. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron ?
J'entends rien, il y a de la friture !
Ah bah ça tombe bien, parce qu'en ce moment chez Lidl, le filet de pommes de terre spéciales frites de 2 kg est à 1,39€.
1,39€ les 2 kg de pommes de terre spéciales frites !
Soit 70 centimes le kilo, et origine France hein !
Ouais bah ça va friter à ton retour !
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, pommes de terre de consommation, calibre 50-70, traitement antigerminatif après récolte, variété César, Bricata ou Noblesse selon arrivage, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
La question conso, c'est tous les samedis matins à 7h06. Bonjour Lionel Mauguin.
Bonjour.
Vous êtes en charge de la rubrique argent à 60 millions de consommateurs. Vous allez nous aider à y voir plus clair ce matin dans toutes les promos qu'on voit en ce moment dans les supermarchés. Et on va dire la tromperie la plus répandue, elle consiste à gonfler le prix d'origine.
Alors, tromperie, c'est un grand mot, hein. Je ne suis pas sûr que ce soit délibéré, mais en effet, on a pu constater, puisqu'on a vérifié, que les prix barrés, quand vous êtes face à une promo, le prix barré doit correspondre normalement au prix qu'on trouvait avant la promo.
Hein. Exact.
Et bah, ce n'est pas souvent le cas. Et donc, c'est un des constats qu'on a pu faire à l'occasion de cette enquête. Le prix barré, le prix de référence, ne correspond pas au prix qu'on a trouvé avant la promo.
Donc, ça veut dire qu'on les gonfle juste un peu comme ça, histoire de dire qu'on a fait une petite promo, quoi. Enfin, une grosse promo.
Bah, en réalité, on trouve plus souvent un tarif plus élevé avant la promo que le prix de référence. Ouais. Donc, finalement, la promo peut paraître encore plus intéressante en réalité que ce qui est indiqué dans le catalogue.
Lionel Mauguin, vous avez suivi 63 produits avant, pendant et après promotion et vous avez constaté des promos sur des produits qui n'apparaissent que pendant les promos, c'est bien ça ?
Oui, bah oui, c'est une des surprises de l'enquête, effectivement. Il semble qu'il y ait des produits qui sont présents dans les magasins uniquement à l'occasion de promotions, notamment chez certaines enseignes qui font pas beaucoup de marques comme Lidl, qui vend pas beaucoup de marques nationales. Mmh. Donc des produits de grandes marques qu'on trouve chez Lidl en promo, avec un prix de référence barré, qui fait référence à un produit qui n'existait pas avant dans les linéaires de chez Lidl et d'autres d'ailleurs. Oui, c'est une des surprises, effectivement. On n'a pas forcément la référence du produit avant et même après la promotion.
Il y a aussi des promos, bizarrement, qui sont en rupture de stock. Ça veut dire quoi ?
Alors, bizarrement, je dirais même scandaleusement.
Oui, scandaleusement, oui.
Il y a plus de la moitié des consommateurs qui se déplacent en magasin pour profiter de ces promotions
c'est
et
ça.
Qui arrivent le jour J, le premier jour de la promo, et ils font face parfois à des rayons vides.
Mais ce sont de réelles ruptures de stock ou alors c'est finalement juste pour faire venir le client en magasin ?
Bah, c'est raté, en tout cas, le client il sera pas content, mais c'est vraiment une rupture de stock qui est d'ailleurs réprimée par le code de la consommation.
Hein. Ouais.
Il faut quand vous faites la publicité d'un produit en promo qui commence à tel jour, il faut que ce produit soit disponible.
Bien sûr.
Donc là, vous pouvez faire une réclamation au magasin pour commander le produit au prix promis. Mmh. Et s'il le fait pas, et ben d'alerter la répression des fraudes parce que c'est vraiment inadmissible. Et effectivement, il y a un taux de rupture de stock sur les produits en promo qui est bien plus élevé que sur les autres produits.
Mmh. On continue à balayer un peu votre enquête. Il y a aussi l'opération promo qui permet de faire grimper les prix après. Expliquez-nous.
Ben là, c'est un constat. On avait émis peut-être l'hypothèse que le prix après la promotion ressortait plus cher qu'avant la promotion, surtout en ce moment.
Ouais.
Effectivement, c'est un constat qu'on a pu vérifier dans un peu plus de 10% des cas, c'est-à-dire qu'effectivement... le prix qu'on retrouve après la promotion est plus cher que celui qu'on retrouve
c'est
avant.
Fou.
Donc ça peut être considéré comme une sorte de paravent à une inflation, la promotion, surtout en ce moment, puisque les prix vont beaucoup, beaucoup augmenter dans les grandes surfaces dans les semaines et les mois qui viennent. Donc attention, si vous voulez racheter un produit que vous avez trouvé en promo, il sera peut-être plus cher. Quoi.
Ouais. Alors, il y a aussi, et ça on le voit fréquemment, les formats maxi, le format familial, le format atypique. Parlez-nous un peu de cela.
Alors oui, on a constaté qu'il y avait quand même pas mal de produits en promo qui avaient un format qui était pas le même que d'habitude. Mmh. Par exemple, on est tombé sur des boîtes de sachets de 50 T, ouais. alors que le format standard est à 25. Mmh. La boîte de 50 sachets était plus chère si on compte au sachet.
Ouais.
C'était 5 centimes plus cher. Oui, oui. C'était 5 centimes le sachet en promo et compte 4 centimes avant pour le paquet de 25 sachets. Donc, et puis on sait très bien que les paquets familiaux, les paquets économiques, voilà, ça ne veut pas forcément dire que vous faites une bonne affaire.
Bien sûr.
Parce que je rappelle simplement que promotion, ça ne veut pas dire remise ou ristourne, ça veut dire mise en avant. Donc il n'y a pas de promesse de baisse de prix avec des allégations comme celle-ci.
En gros, vous nous dites que ces promos rapportent surtout finalement aux grandes enseignes, quoi. Pas à nous. Hein.
Alors, on va donner quand même une bonne nouvelle, c'est que toutes les promos sont passées en caisse. Donc il y avait vraiment, pour les remises immédiates, ces promos, ou bien le deuxième à moitié prix, on a pu vérifier que ça passait comme ça. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. C'est tout ce qui est autour, les formats atypiques.
Bien sûr.
Et le conseil qu'on peut vraiment donner,
oui, justement,
que les gens commencent à savoir, c'est de bien regarder le prix au kilo ou au litre, parce que c'est le seul qui vous permet d'avoir une idée du prix que vous mettez sur ce produit.
Donc quand on est en magasin, on regarde en effet le prix au kilo. Il y a d'autres astuces, comment nous, consommateurs, on doit réagir, comment être vigilant finalement?
Si vous voulez acheter un lot, par exemple deux paquets de café, parce qu'il vous semble que ça serait plus intéressant que l'unité, là il faut vérifier parce que ce n'est pas toujours plus intéressant d'acheter un paquet de plus ou un format plus important. On a pu vérifier que le format standard était parfois moins cher que les deux paquets. Ouais. En tête de gondole, faites attention parce que des fois, il y a un mélange de produits en promo. Par exemple, une pack de bière de 33 centilitres, eh bien, c'est le pack de 25 centilitres qui est en promo. Donc, attention de ne pas se tromper. Ça arrive. Ou bien le dentifrice avec tel goût, et celui en promo est pas la même marque avec un autre goût. Ouais. Donc, il y a un certain nombre d'astuces comme ça à déjouer. Mais en même temps, bon, ça reste quand même une bonne affaire d'aller faire les promos dans les grandes surfaces.
Des promos pas réglo, c'est à lire dans le numéro de janvier de 60 millions de consommateurs. Merci à vous, Lionel Mauguin.
Merci à vous.
Bon samedi.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
6h30, le soleil se lève dans 2h et les jours commencent à rallonger. L'information de ce samedi matin, Guillaume Périlou. Bonjour Guillaume.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de ce journal, Valérie Pécresse durcit le ton alors que certains, au sein même des Républicains, doutent de sa capacité à rassembler. La candidate de la droite passe à l'offensive. Reportage à Oyonna dans ce journal.
Une nouvelle conséquence du Covid-19, le report des épreuves de spécialité du bac. Hein, un report de 2 mois, il s'agit de laisser plus de temps pour les élèves qui ont été malades, a tranché le ministre de l'Éducation.
C'est un livre qui libère la parole après l'apparition de l'enquête qui révèle le scandale des EHPAD Orpea. Les langues se délient, des soignants et des proches de patients s'insurgent à leur tour contre les conditions d'hébergement de certains résidents.
Au sommaire de la prochaine demi-heure à 6h40, la rencontre ce matin de Naïma Benchemal avec le groupe Kyo. Et puis la balade du samedi avec Marion Sauveur, nous irons dans le Val-de-Loire. Et puis avec Vanessa Zaza, nous irons dans l'heure à la chasse aux crapauds. Mais d'abord la tendance météo avec vous Valérie Darmon.
Une France encore parfaitement coupée en deux, beau au sud et gris et brumeux au nord, comme le précise ce matin, comme tous les week-ends, Flavienne, Julie, Antoine, Sophie, répartis sur tout notre territoire sur Twitter.
Allez, détails météo dans 7 minutes, merci Valérie.
Europe 1.
Valérie Pécresse était hier en déplacement à Oyonnax dans l'Ain sur le thème de la santé.
Oui, la candidate des Républicains a tenté de muscler son jeu et pour cause. Sa stagnation depuis quelques temps dans les sondages, des doutes ont commencé à naître dans son propre camp sur sa capacité à parler aux Français. C'est un reportage de notre correspondant dans la région, Jean-Luc Boujon.
Ces derniers jours, son entourage lui avait demandé de fendre l'armure et de monter au front, car depuis plusieurs semaines, le discours de Valérie Pécresse n'imprimait plus vraiment dans l'opinion. Hier, durant son meeting, la candidate LR est donc passée à l'offensive sur deux sujets totems de la droite, autorité et sécurité.
Moi, je ne supporte plus ces agressions de maires, de policiers, de gendarmes, ces agressions de pompiers. Alors je le dis, pour les agressions des personnes ayant autorité et ayant des missions de service public, ce sera une peine minimum d'1 an de prison ferme.
Un ton et un discours qui ont plu à Paul, militant depuis 40 ans.
Je trouve qu'elle a bien musclé son discours. C'est très positif de sa part. C'est une femme qui va se faire respecter.
Reste que pour Evelyne, la candidate LR a encore une bonne marge de progression.
Peut-être qu'il y a, sur sa manière de s'exprimer, un problème d'oration pour fédérer les foules. C'est une personnalité qui est un peu plus en retrait.
Il faut qu'elle s'affirme.
Qu'elle s'affirme davantage et qu'elle porte davantage ses idées aussi, peut-être.
Une nécessité pour Valérie Pécresse si elle veut donner un second souffle à sa campagne. Elle qui désormais arrive régulièrement en troisième position dans les intentions de vote. Oyonnax, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Et à gauche, Christiane Taubira s'attaque à la candidate LR. Nous avons besoin de cohésion, pas de paroles irresponsables comme on va sortir le Karcher de la cave, a lancé l'ancienne garde des Sceaux hier. Le vote pour la primaire populaire est ouvert en ligne jusqu'à demain soir. Yannick Jadot, de son côté, dévoile son programme aujourd'hui à Lyon. Le candidat d'Europe Écologie Les Verts veut enclencher la transition écologique, sans oublier, dit-il, la justice sociale. Discours attendu à 16h15. À l'extrême droite, c'est un éloignement douloureux pour Marine Le Pen. Sa nièce, Marion Maréchal, penche pour Éric Zemmour. Une chose est sûre, désormais, elle ne soutiendra pas la présidente du RN pour la présidentielle.
Et puis le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a lui fini par trancher. Les épreuves de spécialité du baccalauréat sont reportées de 2 mois.
Oui, elles se dérouleront finalement les 11, 12 et 13 mai et non plus mi-mars en raison de la crise sanitaire. Une décision qui satisfait la majorité des syndicats et représentants de parents d'élèves. Écoutez, Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU, le principal syndicat du secondaire, au micro de Céline Géraud.
Il y avait un impératif d'équité et d'égalité que le ministre a semblé entendre. Il a fallu longtemps lui répéter, puisque ça fait quand même plusieurs semaines qu'on le dit, qu'on n'avait jamais tous nos élèves en même temps dans une salle de classe, que finalement ça allait et ça venait au gré des résultats des tests positifs du Covid et qu'on n'avançait pas du tout au même rythme. Le risque, c'était que dans certains endroits, les élèves aient presque vu tous les sujets du programme et que dans d'autres endroits, on soit encore très loin, qu'on soit à 3 ou 4 chapitres de la fin. On a noté un changement de ton depuis le 13 janvier et la réunion avec Jean Castex. Il y a eu un certain nombre de réunions ces derniers jours et qu'aujourd'hui, le ministre nous a parlé avant de parler aux médias.
Voilà, Sophie Vénétité du SNES-FSU. Après le scandale des EHPAD Orpea, plusieurs familles et personnels de santé prennent la parole.
Oui, ils dénoncent les conditions d'hébergement en maison de retraite. Tout part du livre « Les Fossoyeurs » de Victor Castanet, paru aux éditions Fayard. Le journaliste rapporte les maltraitances et négligences au sein des EHPAD privés du groupe Orpea. Nina Droff.
Sophie connaît bien le problème des négligences en EHPAD. Sa mère, atteinte d'une maladie neurologique, a résidé pendant 2 ans dans une structure d'accueil privée, dans des conditions abominables qui l'ont poussée à retirer sa mère de l'établissement.
J'arrivais le matin, il y avait 1 mètre de diamètre de sel et d'urine sous le lit, le nombre de protections rationnées. Quand les personnes avaient fait, si ce n'est pas l'heure de les changer, ils ne les changent pas. Les patients couchés en 2 minutes, jetés sur le lit comme des sacs de linge sale, c'était une catastrophe.
Ce quotidien n'est pas une surprise pour Sabrina Deliri, cofondatrice de l'Observatoire de l'âge et du Cercle des proches aidants. Elle dénonce un manque cruel de moyens dans les structures.
La question de la maltraitance institutionnelle, elle concerne tous les établissements en France, le secteur manque de moyens financiers, manque de moyens humains. En moyenne, une aide-soignante pour 10 résidents. Elles n'ont pas le temps de s'occuper de chaque personne, de doucher tout le monde tous les matins. C'est toujours la course.
En plus des moyens supplémentaires, Sabrina milite pour la création d'un organe de contrôle indépendant de la vie dans les EHPAD.
Sur le plan sanitaire, le pass vaccinal sera imposé en Polynésie française dès le 8 février. Un pass obligatoire pour toutes les personnes de plus de 16 ans. À l'étranger, un mot de la situation en Ukraine. Joe Biden annonce l'envoi de troupes américaines en Europe de l'Est. Hier, le président ukrainien appelait les Occidentaux à ne pas semer la panique, alors qu'Emmanuel Macron et Vladimir Poutine convenaient de leur côté de la nécessité d'une désescalade des tensions.
Guillaume, on parle de sport à présent, notamment de football. Nantes s'est imposé 2-0 contre Brest hier soir en 8e de finale de la Coupe de France.
Et oui, défense solide et attaque efficace. Les Canaris sont les premiers qualifiés pour le prochain tour de Coupe de France. Antoine Comboiré, entraîneur du FC Nantes, est évidemment satisfait de ce genre de match. Il est au micro de Loïc Folio.
Ouais, forcément, on est à beaucoup de satisfaction et puis même de la fierté parce que voilà, en plus de nous qualifier, on fait un match solide, un match comme j'aime voir mes joueurs faire. Voilà. C'est une assise défensive très solide, très compacte, très homogène, on récupère des bons ballons. Et puis surtout, donc, voilà, on fait un clean sheet, on marque 2 buts. Deux buts exceptionnels donc, avec notre capitaine du jour, Ludo. Donc voilà, on est content. Et puis surtout, on sait qu'on va faire un quart de finale. Voilà, bien sûr que il y a beaucoup de satisfaction.
Voilà, Antoine Comboiré au micro de Loïc Folliot. Un mot enfin de handball et de la déception des Français.
Oui.
L'équipe de France masculine, championne olympique à Tokyo, a échoué aux portes de la finale européenne hier, battue par la Suède 34 à 33.
Et c'était le journal de Guillaume Périlloux. Merci Guillaume, à tout à l'heure. La météo, Valérie Darmon, le temps de week-end, on commence bien sûr par ce samedi.
Et effectivement, avec le soleil qui brille encore près de la Méditerranée et en montagne dans les Pyrénées ainsi que sur le sud des Alpes et du Massif central, partout ailleurs l'humidité piégée dans les basses couches de l'atmosphère ne se dissipe toujours pas et les nuages restent très tenaces avec un petit peu de crachin au nord de la Loire et du vent sur les côtes normandes, donc toujours ambiance automnale sur la partie nord.
Demain ça donne quoi ?
Eh bien demain, ça donne qu'entre Brest et Strasbourg, le temps va être assez gris et brumeux toujours, avec du centre au massif central des brouillards givrants, un petit peu comme ce matin. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au nord de la Loire et surtout au nord de la Seine, entre la Belgique et le bassin parisien, il fera assez beau, avec le retour de belles éclaircies dans l'après-midi. Et il fera toujours aussi beau dans l'extrême sud des Pyrénées au pourtour méditerranéen, avec des températures stationnaires légèrement en hausse. Ce matin, entre moins 5 à Manosque et 10 degrés à Cherbourg, et cet après-midi entre 3 à Dijon et 16 degrés à Toulon.
Merci Valérie, à tout à l'heure. Allez, notez qu'à 7h10, on partira en balade, on sera dans l'Eure en Normandie, puis dans le Val-de-Loire. Dans un instant, la rencontre du samedi. Ce matin, c'est le groupe Kyo.
Europe Matin Weekend.
7h.
Giral.
Oui. 7h20. C'est la rencontre de Naïma Benchemane et ce matin, c'est le groupe Kyo.
Bonjour Florian, bonjour Benoît.
Bonjour.
Vous êtes deux des membres du groupe Kyo, drôle d'endroit pour une rencontre. Nous nous sommes donné rendez-vous au Gibus, une salle de concert parisienne où à vos débuts, vous avez fait votre premier concert. Et j'imagine combien cela doit vous faire remonter une foule de souvenirs.
Et ouais, c'est le premier concert parisien avec ce que ça représente pour des gars de banlieue. Donc c'était un peu la consécration. Le Gibus, c'était une salle rock, la salle rock un peu de référence, quoi. Dans la capitale. Nos accoutrements étaient de circonstances, c'est-à-dire qu'on avait tout donné, peut-être un tout petit peu trop.
Pourriez-nous décrire un peu l'accoutrement ?
Il y avait une mode qui voulait qu'on mette une sorte de bas noir et un short en jean déchiré par-dessus, un peu grunge et tout. Et malheureusement, on a aussi l'idée de se faire des tresses pour l'occasion. Une partie de la tête tressée ou toute la tête, je ne sais plus.
Et des couleurs.
Des couleurs.
Des couleurs. Cheveux rouges, les cheveux bleus. On avait tout mis.
Mais
on avait tout mélangé.
Ouais, avec des bombes pas du tout faites pour te mettre dans les cheveux, quoi. Donc au fur et à mesure du concert, ça a coulé et ça pique et ça brûle. Voilà.
Le Gibus, cet endroit symbolise cela en 20 ans. Vous en avez parcouru du chemin. Le chemin, c'est le titre de votre second album, celui qui vous apportera le succès et la victoire de la musique de la révélation de l'année en 2004. Quel regard portez-vous sur ce que vous étiez à l'époque ? Ce rock un peu juvénile mais tellement irrésistible que vous produisiez, est-ce que c'est un regard tendre, un regard critique ou un regard amusé ou un peu des trois ?
Il y a essentiellement de la tendresse parce que bien évidemment qu'il y a des trucs qui nous font rire, hein, quand on regarde en arrière, que ce soit des clips, des images, des photos. C'est ça le problème quand t'as une longue carrière, c'est que c'est difficile de tout assumer sur 20 ans. C'est à partir de ce moment-là que la carrière a commencé et qu'aujourd'hui on peut faire cette interview et encore en parler parce qu'on continue à sortir des albums et on part en tournée bientôt. Donc tout ça c'est grâce à cette époque-là, donc beaucoup de tendresse. Ouais. Comme il dit, j'ai cherché le Graal, la jeunesse éternelle, le Botox dans les veines, j'arrête de fumer, de boire chaque dimanche, chaque
semaine, j'ai rechuté hier. En 2014, vous aviez sorti l'album intitulé L'équilibre, et dans le fond, moi je me demande si c'est pas aujourd'hui, en 2022, avec la part du lion, qu'en grande partie, vous avez trouvé cet équilibre, ce juste dosage, avec des textes plus travaillés, une écriture plus affinée.
Bah, c'est ce que, en tant qu'artiste, c'est ce qu'on se souhaite, hein, c'est d'essayer
toujours
de...
Toujours le meilleur disque, le dernier. Ouais, le dernier est toujours le meilleur, voilà.
J'ai la sensation, en tout cas, qu'au niveau des textes, j'ai réussi pour la première fois à aborder sereinement des thèmes qui me tenaient à cœur. Moi, j'ai vachement du mal à être très concret, très premier degré. J'ai très peur d'être maladroit. Donc, je mets toujours beaucoup d'images et beaucoup de poésie pour exprimer des choses qui sont peut-être dures à exprimer au premier degré, quoi.
Quand je serai jeune, je prendrai ta part d'ombre pour en faire de la musique du monde et... Je découperai des morceaux de nuit pour te faire des rôles d'origami.
Je disais tout à l'heure qu'on essaie de s'imprégner de l'air du temps aussi dans les sonorités. Et là, on s'est dit, tiens, on pourrait peut-être essayer d'être un peu plus brut et resimplifier, essayer toujours de simplifier, de mettre le moins d'éléments possible et puis d'aller peut-être vers les instruments qu'on joue le mieux, qui sont plus les guitares, les batteries, que les programmations des fois, ou les synthés et tout ça, quoi. Donc on a essayé de remettre un peu plus de nos influences des années 90, on va dire.
Vous allez repartir sur scène, la scène ça a manqué à beaucoup d'artistes. Comment vous appréhendez de retrouver votre public comme ça sur la durée?
Bah là on est assez contents. Je pense que ça va être vachement bien et justement on essaye d'aussi d'intégrer ce côté cinématographique qui est dans notre musique.
Une scénographie assez visuelle.
Alors c'est pas... En tout cas on essaye...
D'accord.
C'est pas exactement comme ça.
Mais ouais, ça, j'ai l'impression que ça va être pas mal.
Oui, on a vraiment hâte et puis on a appris il y a peu de jours que a priori les gens pourront être debout. Donc, ouais, alors j'espère que je ne vais pas me porter le mauvais œil. Donc, c'était quand même une très bonne nouvelle. Et puis, pour aussi les gens qui travaillent dans le spectacle, et pour aussi les tourneurs, et puis les gens des salles et tout ça.
Je veux juste une dernière danse.
Merci Benoît et merci Florian. Kyo, c'est un groupe qui a sans cesse su se renouveler en 20 ans. Merci de ce drôle d'endroit pour une rencontre au Gibus, où vous montiez sur scène à Paris, en tout cas pour la première fois il y a 20 ans. Pour moi, vous resterez toujours comme une petite Madeleine de Proust qui m'accompagne depuis 20 ans. Je sais que c'est le cas aussi pour beaucoup d'auditeurs. Donc merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup.
J'aime l'idée d'être une petite Madeleine.
Ce soir, j'aime de mon époque. Je remplis des pages, ce soir je noircis des blocs. Et si on se croise, il faudra baisser les stores. S'éclater les cordes, vos casses, mais c'est du sport. C'est pas ton jour, pas ton mois, pas ton année. Le bonheur court toujours après l'horizon.
La rencontre de Naïma Benchemane, le groupe Kyo, en tournée partout en France le 24 février à Lille, le 11 mars à Bordeaux et à Paris le 13 mai prochain.
Matin week-end, Thierry Dagiral.
À 6h47, le fil info de ce samedi matin, Guillaume Périlou.
Les épreuves de spécialité du baccalauréat sont reportées. Elles devaient se tenir mi-mars, elles auront lieu finalement mi-mai. Un report pour permettre à tout le monde, y compris les élèves qui ont été malades, de préparer sereinement ces épreuves, dit le gouvernement. Une décision saluée par le principal syndicat des enseignements du secondaire. L'actualité à l'extrême droite marquée au contraire par une quasi-rupture, celle de Marion Maréchal et de sa tante Marine Le Pen. L'ancienne Benjamine du parti à l'Assemblée nationale dit pencher désormais pour Éric Zemmour. Un policier est recherché en Seine-Saint-Denis, activement recherché depuis hier soir après qu'une femme a été retrouvée sans vie dans un appartement parisien. Aux États-Unis, une femme porte plainte au civil contre le chanteur Chris Brown. Elle l'accuse de l'avoir drogué puis violé à la fin de l'année 2020. Elle demande 20 millions de dollars de dommages et intérêts. Et puis un mot de la situation en Ukraine qui ne s'apaise pas. Le président américain Joe Biden annonce l'envoi de troupes en Europe de l'Est. Les États-Unis considèrent que la Russie a déployé suffisamment de forces pour pouvoir envahir son voisin. À Londres, Boris Johnson s'est dit déterminé à éviter une effusion de sang en Europe. Vladimir Poutine assure quant à lui n'avoir aucune intention offensive.
Merci Guillaume. Dans le journal de 7h, on sera en Ukraine. Et puis allez, dans 3 minutes maintenant, vous le savez, on part en balade avec Vanessa Zah, Marion Sauveur et avec des crapauds. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
La balade du samedi, Zah Sauveur, le duo de choc.
Bonjour
Dagiral.
Est-ce que vous allez bien?
Mais oui.
Bon, alors ma petite Vanessa, ce matin on va partir en week-end avec des crapauds.
Avec des crapauds.
Dans le nord de l'Eure, à Pause précisément, c'est près de Louviers. C'est quoi cette idée encore, Vanessa?
Bon, on y est là. Avec...
Vous me faites rêver, dites donc.
Ben mais farfelu, pas tant que ça, parce que pour une fois, bah attendez, je déroule tout. On va se rendre utile pour une fois, on va donner un peu de sens à notre week-end. En ce moment, au mois de février, et ben c'est le moment pour le buffo-buffo, c'est-à-dire le crapaud commun, de se reproduire en milieu aquatique. Alors, contrairement à la grenouille, il vit en milieu boisé, donc pour se rendre sur son lieu de reproduction, il faut qu'il migre, mais sans se faire écraser, ça c'est un challenge. Alors, il faut savoir que la LPO installe des bâches sur lesquelles les crapauds rebondissent pour tomber dans des seaux, que vous videz évidemment délicatement dans les mares après, mais là, bah, les crapauds de Léry, à certains endroits, il n'y a pas de bâche, donc ils vont avoir besoin de vous tous les soirs, en semaine et le week-end, dès 19h30, en ce moment, c'est l'heure à laquelle ils sortent, ils craignent la lumière, hein. Donc c'est à cette heure-là qu'ils sortent.
Allez,
voilà, Delphine Pommier de l'association des crapauds du Léry vous explique comment ça se déroule.
Comment ça se déroule, Delphine?
Eh ben, on fait des allers-retours avec notre lampe frontale et pendant une heure et demie, voire plus de temps. En fait, ça dépend du taux d'humidité et de la température, puisque j'ai mémoire que nous avons ramassé un soir de pluie plus de 150 crapauds en une seule soirée. Donc là, juste la problématique, c'est qu'il faut être équipé au minimum d'un gilet jaune, parce que comme ça se passe au bord d'une route, c'est plus prudent d'avoir au moins une lampe, alors soit frontale, soit à la main, mais d'avoir une lampe frontale, c'est plus pratique parce que du coup, vous avez vos deux mains disponibles, une pour tenir le seau et l'autre pour ramasser les crapauds.
Eh ben,
vous voyez, tu sais, ou pas?
Ah ben, un week-end comme ça, c'est
ça donne
chez moi,
envie.
Quoi, hein.
Marion, 150 crapauds. Pas mal pour le prince charmant.
Ah bah oui,
hein,
j'ai
mais
du
non.
choix.
Mais allez, c'est un doublé gagnant, évidemment, pour, pour faire un geste quand même aussi pour la planète.
On le fera ensemble. C'est
on
ça,
fera ensemble.
Ça, fois,
ouais, non, mais il y a un sens,
voilà,
évidemment, on est dans le sourire, mais il y a vraiment une démarche.
Oui.
Et puis, on en profite pour se mettre au vert, au bord de l'eau, sur les bords de Seine. Alors, ce coin-là, je l'aime bien. Je sais que vous le connaissez aussi, Thierry.
Ben oui.
On est entre Pause et les Andelys. C'est vraiment le coin le plus beau bief de la Seine. Le bief, c'est la portion entre deux églises. La zone, elle est classée Natura 2000, des coteaux calcaires, 22 petites îles. Mmh. Et puis, tout le long, vous avez des petits villages blottis dans des boucles. Alors, il y a Saint-Pierre-du-Vaudrey que vous connaissez, Pause qui était une cité batelière. Mmh. Voilà, c'est intéressant parce que cette batellerie historique, elle est en train évidemment de s'éteindre. Il y a une association qui se bat pour la faire vivre avec le musée de la batellerie, entre autres dans le bateau du Midway. Alors là, vous apprenez énormément de choses, dont la radio Écluse, qui était la radio moquette de l'époque. Allez-y, je ne vous en dis pas plus.
Ouais.
C'est pour piquer un petit peu la curiosité.
Bon.
Voilà. Et puis, évidemment, on remonte en kayak la Seine, à partir de la base de loisirs de Pause. Ou sinon, on enfonce sa bicyclette puisqu'on est sur la véloroute, la Seine à vélo.
Allez, rapidement, une adresse coup de cœur.
Allez, l'hôtellerie Saint-Pierre, une institution blottie aussi dans une boucle de la Seine.
Ouais.
On dort les pieds dans l'eau, un hôtel de charme. C'est sympa parce qu'on rayonne entre Giverny et Rouen. Et en plus, la table est assez bonne. Marion.
Allez faire un tour à Rouen, c'est une très belle ville, Rouen.
Mais oui,
hein,
il n'y a pas de parti pris.
Marion, on part avec vous dans le Val-de-Loire.
On change de fleuve,
oui.
On va à la découverte d'un légume mal aimé, c'est le salsifis.
Ah,
ce légume racine qui se récolte en ce moment entre septembre pour les primeurs et février-mars. On va manger uniquement sa racine, donc on va savoir douce et sucrée. Et la base de son feuillage qui a un petit goût d'artichaut. C'est un légume qui nous vient du bassin méditerranéen à l'origine, où il était récolté à l'état sauvage pour sa plante. Ce n'est qu'aux alentours du 15e siècle que ce salsifis est cultivé en potager en Italie avant d'arriver en France.
Dans nos cantines.
Et aujourd'hui.
Et je me dis quand même.
Non, mais c'est nos souvenirs de cantine,
gâté
c'est dommage.
Week-end,
mais
un week-end avec les crapauds et on mange des
mais
salsifis.
Mais on vous donne envie.
C'est la
mais
fête.
Justement.
On mangeait, c'est la cantine.
Mais attendez, c'est pas les mêmes salsifis.
Ah bon,
vous vous êtes trompé. Les vrais salsifis, c'était pas ceux que vous mangez à la cantine, mais sont cousin, le scorsonnerre, c'est ce que nous explique le maraîcher Éric Roy à Saint-Genouf en Indre-et-Loire.
On confond souvent salsifis et scorsonnerre. C'est des cousins-cousines. Au départ, c'est la même famille de plantes, mais ce n'est pas du tout les mêmes espèces. Le scorsonnerre, c'est la racine noire, ce n'est pas le salsifis. Le salsifis, c'est la racine beige. Et avec beaucoup, beaucoup de radicelles, chose qu'on a moins sur le scorsonnerre noir. ça n'a pas le même goût. Le scorsonnerre aura plus d'amertume que le salsifis. Et en plus, quand il atteint une taille adulte, il a beaucoup plus de fibres que le salsifis. Au et point si... que des fois, c'est fibreux, mais à un point que c'est dur comme du bois, quoi.
Et si vous avez la chance de trouver donc des vrais salsifis, du salsifis frais comme chez Eric Roy, achetez-les bien fermes, pas trop longs. Et Eric Roy propose des livraisons partout en France.
Bon, comment on les cuisine alors? On alors met vraiment un... plein de béchamel, plein
moi,
de gruyère.
Moi j'adore ça en gratin.
Il faut tuer le goût.
Mais non, surtout pas, c'est délicieux le salsifis. Ça, ce sont mes souvenirs d'enfance, salsifis, béchamel.
C'est bizarre, ils se précipitent pas là.
Pour découvrir le véritable goût des salsifis, je vous propose de les cuisiner entiers, glacés. Alors première chose, on ne l'épluche pas, brosse. On garde sa peau et donc c'est petits radicelles, toutes ces petites racines, ça va apporter du croquant en bouche. Mmh. Ensuite, on les met entiers dans la sauteuse avec un peu d'eau, du sucre, du beurre. Par-dessus, on plaque une feuille de papier sulfurisé avec un petit trou au centre, c'est la petite cheminée. Mmh. On laisse cuire jusqu'à ce que l'eau s'évapore. Et une fois que l'eau s'est évaporée, on enlève le papier sulfurisé, on enroule nos salsifis, les petits radicelles dans ce beurre, dans ce sucre caramélisé. Ça va les glacer, ça va être magnifique. Vous vérifiez la cuisson avec un couteau et vous m'en direz des nouvelles,
voilà,
vous verrez.
Ou pas, merci ou pas. Marion.
J'en étais sûre.
On retrouve bien sûr votre recette sur europa.fr. Crapaud et salsifis, merci. Merci les filles pour ce beau week-end, à demain.
À demain.
À demain.
Merci d'écouter Europe 1, on est avec vous. Bon réveil, il est 7h.
Europe Matin Week-end. Thierry Dagiral.
Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Le journal est présenté par Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Europe 1 en Ukraine ce matin, reportage à Kiev où la population redoute une invasion russe.
C'était l'un des chantiers d'Emmanuel Macron, améliorer le logement des Français. Nous verrons s'il a réussi. Bilan chiffré. Et mes questions à la ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon, mon invitée dans quelques minutes ce matin.
On parlera de sport également ce matin. L'OM face à Montpellier en Coupe de France, c'est ce soir sur Europe 1. Des Marseillais qui, on l'entendra, veulent y croire.
Dans la prochaine demi-heure, Mathieu Alterman nous parlera du 77e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz et du devoir de mémoire. Rendez-vous vers 7h20. Mais avant cela, la tendance météo avec vous, Valérie Darmon.
Eh bien, des Charentes-Hauts-de-France, de la pointe de la Bretagne à l'Alsace, grosse grisaille de basse couche et le petit tiers sud qui reste au soleil.
On détaille tout cela dans 7 minutes, à tout à l'heure.
Europe 1
qui est en Ukraine ce matin car la crise couve toujours, bien sûr.
Oui, il y a eu ces déclarations récentes de Joe Biden qui compte bien envoyer un petit nombre de soldats en Europe de l'Est prochainement face au risque d'invasion russe en Ukraine. Il y a déjà quelques 100 000 soldats russes qui sont postés à la frontière et les habitants de Kiev redoutent une guerre. Ils s'organisent d'ailleurs déjà pour partir. C'est ce qu'a constaté Marion Gauthier sur place.
Deux passeports, des chaussettes et quelques médicaments. Chaque élément a sa place dans le petit sac à dos qu'Olena laisse bien en évidence dans l'entrée.
Préparer ça et savoir que c'est prêt, c'est le plus important. Faire des choses pas à pas, ça vous procure du soulagement. C'est dur de penser plus loin en Ukraine.
La quadragénaire longiligne s'est appuyée sur des listes relayées par les médias nationaux, les mêmes qui lui rappellent sans cesse les tensions à la frontière.
C'est les montagnes russes. Quand mon père et ma mère m'appellent et me demandent quoi faire, où se cacher, je réalise que je n'ai aucun endroit où les mettre en sécurité. Et ça me stresse. La guerre est quelque chose à laquelle vous n'êtes jamais vraiment préparé.
C'est le deuxième sac qu'elle prévoit. Le premier a été bouclé en 2014 lors de l'annexion de la Crimée. Olena soupire et rêve une vie normale, dit-elle, une vie sans sac d'urgence. Kiev, Marion Gauthier, Europe 1.
Et j'ajoute qu'hier, le président ukrainien Zelensky a appelé les Occidentaux à ne pas semer la panique autour de ce risque d'une invasion russe. Et après leur entretien, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, eux, ont convenu de la nécessité d'une désescalade.
On revient en France à présent. Les restrictions sanitaires seront partiellement levées mercredi.
Plus de masques dehors, plus de jauges dans les stades de foot ou les salles de spectacle. Fini également le télétravail obligatoire. Ce qui va changer également, mi-février, c'est le délai entre les doses de vaccins. Jusqu'à présent, si vous attrapiez le Covid, votre troisième dose était décalée de 6 mois. Ça devrait passer à 4. Et pour Arnaud Chiche, qui est médecin urgentiste et président du collectif Santé en danger, c'est plutôt cohérent.
Il y a eu des cas de réinfection rapide. Il y a un rationnel scientifique à rapprocher la troisième dose des deux premières. Il y a vraiment des effets d'optimisation de l'immunité. Donc ça, c'est une bonne chose. Je pense là qu'il y a une volonté d'uniformiser les délais. Et les espaces, ils ramènent tout à 4 mois en post-infection ou entre deux doses. Le deuxième point, c'est que ça va avoir des conséquences sur le pass sanitaire de beaucoup de monde. D'autant plus qu'il y a un effet rétroactif. Et il n'est pas admissible que ça provoque une désorganisation des gens qui vont se retrouver sans pass. Donc il va falloir qu'ils annoncent vite un système pour que les gens ne se retrouvent pas coincés.
Arnaud Chiche au micro Europe 1 de Nina Droff. Et puisqu'on parle de vaccin, il n'est toujours pas le bienvenu en Outre-mer, du moins pour certains. L'arrivée du Novavax, qui est pourtant sans ARN messager, ne change rien. Voilà ce qu'ont déclaré plusieurs personnalités guadeloupéennes ou guyanaises. Ce n'est pas le vaccin, mais l'obligation vaccinale qui continue de leur poser problème.
Transition écologique, justice sociale. Yannick Jadot présente son programme aujourd'hui.
Oui, le candidat écologiste se situe toujours entre 5 et 8% des intentions de vote au premier tour dans les sondages. Yannick Jadot qui veut notamment investir 10 milliards d'euros par an pour la rénovation thermique des passoires énergétiques.
Et justement, la crise du logement qui était l'un des gros chantiers annoncés par Emmanuel Macron.
Et justement, à 3 mois de l'élection présidentielle, il est temps de dresser le bilan. Maud Descamps, c'est un peu comme le bulletin de fin d'année, effort à poursuivre.
Eh bien, il y a d'abord la problématique de la construction de logements neufs. Après une très forte chute ces dernières années, causée notamment par la crise sanitaire, le nombre de nouveaux logements a fortement augmenté en 2021, plus 18% par rapport à 2020. Mais c'est encore insuffisant, juge Fabrice Le Sachet, président d'Erigère, troisième bailleur social du groupe Action Logement en Île-de-France.
Les gens ont besoin de se loger à un coût abordable. Et ça, c'est pas possible parce qu'on construit pas assez. Donc, on a des phénomènes totalement erratiques avec des prix très élevés, notamment de loyers, qui absorbent une partie importante du salaire des ménages et donc un problème de pouvoir d'achat.
Un des objectifs manqués est celui des nouveaux logements sociaux. 104 800 constructions l'an dernier. L'objectif fixé était de 120 000. Nous sommes loin des promesses d'un choc de l'offre de logements, regrettent les associations de solidarité. Le bilan est en revanche positif pour les aides à la rénovation énergétique. 750 000 rénovations financées en 2021 selon l'Agence nationale de l'habitat. Une hausse portée notamment par le succès du dispositif MaPrimeRénov.
Les explications de Maud Descamps pour Europe 1.
Et le logement, justement, on continue d'en parler avec mon invité dans un instant, la ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon, qui sera avec moi en studio.
Est-ce diplomatique ou sanitaire ? Taïwan n'enverra pas de représentants officiels aux cérémonies de jeux de Pékin d'hiver. Officiellement, c'est à cause du Covid, mais cette décision intervient, vous le savez, au moment où les relations entre Pékin et Taipei sont au plus bas depuis des décennies. La Chine a intensifié la pression militaire et économique sur ce territoire.
Les Naïcs, on passe au foot. Nantes va en quart de finale de la Coupe de France.
C'est le premier qualifié après sa victoire à la Beaujoire 2-0 face à Brest. Et ce soir sur Europe 1, eh bien on suivra Marseille qui reçoit Montpellier. L'OM a remporté sa dernière Coupe il y a 33 ans, ça fait un bail. Mais le défenseur de l'OM, Valentin Rogier, veut y croire.
La Coupe de France, c'est une compétition où il y a un titre à jouer. Il n'y a pas énormément de matchs. C'est difficile d'aller au bout de cette compétition. Il reste encore de très belles équipes. Mais en tout cas, on a envie de la jouer et à fond, ça c'est une certitude. On pense, peut-être qu'on se surestime, mais en tout cas on pense qu'on a l'effectif pour jouer toutes les compétitions. Et pour ça, on va tout faire pour gagner tous les matchs, que ce soit un match de championnat, un match de coupe ou un match de coupe d'Europe. On va essayer d'aller le plus loin possible dans les trois compétitions et j'espère qu'on y arrivera.
Valentin Rongier avec Jean-François Pérez. Et puis ils sont mal heureux, nos handballeurs ce matin. C'est le titre de l'équipe ce matin. Les Bleus éliminés d'un cheveu, ou plutôt d'un but, 33-34 contre la Suède.
Merci les Naïcs, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Allez, à présent, on va regarder le ciel avec vous, Valérie Darmon. D'abord, le thermomètre, c'est plus doux aujourd'hui. Hein.
Et oui, on trouve déjà moins de gelée partout, hein, toujours un petit peu plus sur la moitié sud, surtout dans l'arrière-pays provençal et varois, ainsi qu'en Occitanie, avec des minimales entre moins 5 à Manos, Aurillac et au Puy-en-Velay, par exemple, et 9 degrés à Saint-Brieuc, Perpignan, ou encore 10 à Cherbourg, à Paris ce matin, 7 degrés.
Les maximales, ça donne quoi ?
Ça donne des valeurs entre 7 de la plaine d'Alsace au Val-de-Saône jusqu'à 16 en Méditerranée. On repasse un tout petit peu au-dessus des moyennes de saison sur l'ensemble du pays.
Un mot du ciel.
Toujours pareil, hein, couche nuageuse sur les deux tiers nord avec des brouillards, des pluies verglaçantes entre l'Allier, le Loir, le Morvan. Elles sont faibles, hein, quelques vagues éclaircies qui vont résister du sud de l'Alsace au Jura. Dans le sud-ouest, après un début de journée assez maussade, les éclaircies qui se développent là aussi. Et puis des Pyrénées à la Méditerranée, au sud du Massif central, aux Alpes. Là, le soleil qui continue de l'emporter.
Merci Valérie, on se donne rendez-vous bien sûr à 7h30. À suivre, c'est le grand oublié de la campagne présidentielle, le logement. Et pourtant, c'est 20% de notre budget en moyenne. Comment faire baisser l'immobilier ? On parlera également des squats, la grande peur des propriétaires. La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, est ce matin sur Europe 1. Ne quittez pas, on revient.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
L'interview actu de ce samedi matin, 7h11, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en studio avec nous. Question d'actualité pour commencer. Vous avez été d'ailleurs interrogé cette semaine au Parlement sur la hausse du prix du gaz en HLM. Ça peut représenter jusqu'à 250 euros par an, par mois en plus. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Qu'est-ce que peut faire le gouvernement?
Comme vous savez, on a mis en place un bouclier tarifaire pour le gaz et pour l'électricité pour les clients individuels, les gens qui ont un contrat au tarif réglementé. Après, on a des cas particuliers dans lesquels c'est soit la copropriété, soit l'organisme HLM qui a le contrat. Très souvent, ces contrats eux-mêmes sont à des prix lissés, donc tout va bien. Et puis, il y a des fournisseurs défaillants, il y a des contrats qui arrivent à échéance. Et là, il faut trouver un nouveau fournisseur et là, on est au prix du marché. Donc, c'est un sujet dont les organismes HLM nous ont saisi il n'y a, a pas beaucoup de temps. On est en train de regarder avec Barbara Pompili, avec Bruno Le Maire, pour trouver une solution pour que ce bouclier s'applique à tous.
Ouais. Le pouvoir d'achat, Madame la Ministre, va être, vous le savez bien sûr, un sujet majeur de cette campagne. Pourtant, on parle peu finalement du logement, alors que c'est le poste principal de dépense des Français, 20% actuellement contre 16% en 2000, avec un manque cruel de logement, notamment du logement social. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que doit faire l'État ? Qu'est-ce que l'État n'a pas fait ?
Alors, c'est sûr que, paradoxalement, le logement, c'est bien une préoccupation des Français. Vous l'avez dit, hein, 20% de la dépense. Et finalement, on ne le voit pas beaucoup dans la campagne. On ne le voit pas beaucoup dans la campagne aussi parce qu'on n'a pas de candidats qui portent une vision ou des propositions très convaincantes. Un certain nombre nous disent de faire des choses qu'on fait déjà, par exemple la rénovation énergétique.
On va en parler dans un instant. Voilà.
D'autres nous disent qu'il suffit de détruire le logement social et la loi SRU et que tout
ira
bien.
Mais la question, c'est pourquoi les maires sont si frileux finalement à construire, à voir construire sur leur territoire ?
Alors, les maires attendaient aussi des signaux de l'État qu'on leur a donnés. Deux signaux.
Lesquels ?
Le premier, c'est qu'ils voulaient avoir des ressources lorsqu'ils construisent des logements sociaux. Et les logements sociaux étaient exonérés d'une taxe qui est la taxe sur le foncier bâti que ne payent pas les bailleurs sociaux. L'État va compenser cette exonération. C'est une très très vieille demande des maires. Et les maires sont heureux de cette décision et ils l'ont vraiment saluée. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils nous disaient la loi SRU, vous savez cette grande loi qui date des années 2000, défendue par l'abbé Pierre, hein, ça sera la journée du mal-logement la semaine prochaine. Cette loi SRU, elle est trop difficile à appliquer. Et on a dit, il faut la maintenir. Elle s'arrêtait en 2025. Là, le Parlement est sur le point de la pérenniser. Mais nous avons travaillé avec les associations d'élus, avec beaucoup de maires de terrain, pour voir aussi comment la rendre applicable pour que ce soit possible. Et donc, c'est maintenant possible financièrement. Ça va être possible sur l'application de la loi. Après, ça reste une question de volonté politique.
Ouais.
Moi, je défends le logement social. Je défends ce modèle. Vous savez, le logement social, c'est le logement des classes moyennes.
Vous dites que les maires n'ont pas de volonté politique, alors ?
La grande majorité d'entre eux a une volonté politique.
Ouais.
Après, si vous voulez, dans le débat national, on entend Éric Zemmour taper sur le logement social. On entend Valérie Pécresse taper sur le logement social à travers ce qu'elle appelle les ghettos. Et donc, moi, j'aimerais bien que les responsables politiques nationaux prennent leurs responsabilités et soutiennent ce logement. C'est le logement des classes moyennes, c'est le logement des travailleurs clés et c'est le logement de tout le monde.
Il y a un souci, et tous les professionnels le disent, il y a un vrai blocage, c'est bien sûr la loi climat qui prévoit l'interdiction de la location des logements les plus énergivores à partir de 2023. Ceux qui sont classés de E à G, ça fait peur aux acquéreurs finalement. Et donc les biens à vendre ne se vendent pas à cause de cela.
Alors je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit là-dessus parce que...
C'est pas moi qui le dis, ce sont les professionnels qui le disent. Hein. On n'achète pas parce que ça va être trop coûteux.
Non, en réalité, c'est le contraire qui se passe. Les biens, les passoires, donc les biens F ou G, sont plus en vente depuis quelques mois qu'avant. C'est vrai qu'on a fait un choix très politique.
Plus en vente, mais est-ce qu'ils sont achetés ?
On a fait un choix très politique qui est d'interdire à la location les pires passoires thermiques. Vous vous mettez à la place du locataire, et on parlait de l'augmentation du prix de l'électricité, du prix du gaz. Vous êtes locataire, votre logement est super mal isolé, ça vous coûte une fortune, vous n'arrivez pas à chauffer, votre propriétaire ne fait pas de travaux, vous ne pouvez rien faire. Donc on a décidé d'interdire à la location. Ce qu'on voit, c'est plus de biens sur le marché, mais ils sont achetés ces biens. Et il n'y a pas de refus de vente des biens F et G. Il y en a plus sur le marché et il y a plus de transactions. Et finalement, c'est une bonne nouvelle parce que la personne qui achète, elle sait qu'elle achète et qu'elle a des travaux à faire, MaPrimeRénov.
Ouais.
Je refais la promotion de MaPrimeRénov. Vous savez qu'on va arriver au millionième dossier MaPrimeRénov.
Ouais, j'ai vu ça.
Pour un dispositif créé il y a 2 ans.
Avec
donc les propriétaires.
Site unique depuis le 1er janvier.
Voilà. Site unique, un seul site. France Rénov, des guichets unifiés. France Rénov, une aide MaPrimeRénov ouverte aux propriétaires occupants, donc les Français qui sont propriétaires de leur logement, aux propriétaires bailleurs, pour faire les travaux. Du coup, on n'aura pas de blocage du marché sur ces biens. On aura, je pense, au contraire, plus de propriétaires qui vont acheter et rénover. Et c'est
ça
dont on a besoin.
Autre sujet, Emmanuel Vargon, qui fait l'actualité quotidienne. Squat à Brieuc. À Saint-Brieuc, pardon, à Rennes, à Ouistreham, à Amiens. C'est le quotidien, c'est ce qu'on lit dans la presse quotidienne régionale presque tous les jours. C'est la crainte de plein de propriétaires. Éric Zemmour veut imposer l'expulsion immédiate des squatteurs. J'ai envie de dire, que fait le gouvernement ?
Le gouvernement a changé la loi.
Il y a une loi.
Le gouvernement a changé.
Qui ne fonctionne pas.
C'est pas vrai. Le gouvernement a changé la loi. Ouais. On a demandé au préfet de nous faire une remontée de tous les cas qu'ils connaissent. On en a remonté environ 200 sur l'année 2021. Alors, 200.
Avant, c'était les juges, aujourd'hui, on peut appeler le préfet.
Avant, surtout, on ne savait pas combien de cas il y avait parce que ce n'était pas compté. Donc maintenant, on les compte. 200, c'est 200 situations dramatiques. Peut-être qu'il y en a encore certaines qu'on ne voit pas, donc peut-être que c'est 300 ou 400. Ce n'est pas non plus des milliers. Et ce n'est pas non plus des dizaines de milliers. À chaque fois qu'on a un cas,
mais
je le dis aux
propriétaires. Pas possible.
Bien sûr que c'est un drame absolu. J'ai changé la loi.
Mais pourquoi la loi ne fonctionne pas ?
La loi fonctionne, et je le dis aux propriétaires, à chaque fois qu'on a un cas signalé, le propriétaire doit contacter la préfecture, et le cas est réglé. Rennes, ça s'est réglé. Toulouse, ça s'est réglé. Le premier cas qui avait beaucoup défrayé la chronique à Théoule-sur-Mer, ça s'est réglé. Y compris les cas dans lesquels l'appartement est dans une période de succession. Après, la limite, c'est quand c'est un conflit entre propriétaire et locataire. Parce que là, c'est à la justice d'intervenir, et donc on n'a pas fait de procédure dérogatoire du droit commun. Mais
donc
sinon,
pour vous, cette loi
l'État peut
pas
régler
à
le problème.
Certains
non, il faut la faire mieux connaître.
La
il faut la faire mieux connaître. Il faut demander son application. Les huissiers de justice vont la faire mieux connaître. Vous savez, c'est vraiment un sujet de justice sociale. Moi, je suis du côté des propriétaires. Dans ce cas-là, c'est inadmissible d'avoir un squatteur chez soi. Il faut que ça cesse.
Juste un mot rapidement. Vous représentez l'aile gauche du macronisme, on va dire. Qu'est-ce que vous dites au prochain futur candidat Emmanuel Macron ? Qu'est-ce qu'il faudra qu'il fasse s'il est réélu dans le prochain quinquennat qu'il n'a pas pu faire ?
Le président, il a été très investi pour la lutte contre les inégalités. C'est évidemment un sujet qu'on porte très fortement à Territoire de Progrès.
Quel est votre souhait à vous ?
Moi, mon souhait, par exemple, c'est qu'on avance sur les minima sociaux et les prestations, qu'on travaille vers la simplification pour aller vers un système dans lequel on ne se perd pas dans les différentes prestations, où chacun a recours à ce à quoi il a droit, où c'est plus simple et où c'est toujours plus payant de travailler que d'être simplement aux prestations sociales. On a un beau chantier d'amélioration des prestations sociales. Et je suis sûre qu'il le portera. En tout cas, à Territoire de Progrès, on le porte très fortement.
La ministre du Logement, ce matin, sur Europe 1. Merci à vous, Emmanuel Vargon.
Merci à vous.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
7h19, samedi 29 janvier, l'Info Express, Lénaïque Monnier.
Et on connaîtra ce week-end, dimanche précisément, le résultat de la primaire populaire. La principale tête d'affiche, Christiane Taubira, indique que si elle ne l'emporte pas, elle ralliera bien la campagne du vainqueur. La campagne qui va véritablement démarrer aujourd'hui pour Yannick Jadot. En tout cas, elle présente son programme cet après-midi à Lyon. Et puis, de l'autre côté de l'échiquier politique, Marine Le Pen, elle est à Madrid. Elle revoit ses alliés européens. Son rival, Éric Zemmour, sera sur les terres de Guillaume Pelletier dans la Loire. Des milliers de vols annulés aux États-Unis. Une violente tempête est attendue dans l'est du pays. Elle sera accompagnée de chutes de neige et de vents très forts. La Nouvelle-Angleterre, y compris New York et Boston, devraient être les plus touchées par ces intempéries. Pas de finale à l'Euro pour les handballeurs français, battus d'un but par la Suède hier en demi-finale. En foot, Nantes est la première équipe à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France. Victoire 2-0 face à Brest hier soir. Et sur Europe 1, tout à l'heure à 20h45, on suivra Marseille face à Montpellier en direct et en intégralité.
Merci Lénaïque. Dans un instant, l'œil de Mathieu Alterman. Mathieu qui va rendre un hommage ce matin. A tout de suite, c'est votre matinale week-end sur Europe 1 et on parle de vous.
Europe Matin Week-end. Thierry Dagiral.
L'œil de Mathieu Alterman, c'est tous les week-ends bien sûr à cette heure-ci. Bonjour Mathieu.
Bonjour Thierry.
Ce matin, pas de persiflage, mais un hommage.
Oui, sur les artistes français qui se sont battus pour la France libre. Alors que le 27 janvier, nous commémorions le 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, revenons sur le parcours héroïque de certains des plus grands artistes français de l'époque. Alors, notre pays souffre de deux mythes complètement fantaisistes. La France fut résistante, ce qui est absolument faux. La France fut collabo, ce qui n'est pas plus vrai. Il y a en réalité les deux, des êtres épouvantables qui ont commis des horreurs et des gens formidables au courage héroïque. Parlons plutôt des héros, issus du milieu artistique, qui, bien que très peu nombreux, comparés aux germano-compatibles, n'en furent que plus courageux. Le premier de ceux-là, vous le reconnaissez tout de suite.
T'as de bons yeux, tu sais.
Jean Gabin, bien sûr, qui refusa de travailler pour les Allemands. Refusa de travailler pour les Allemands et partit s'exiler aux États-Unis début 1941. Ouais. Il s'engage dans les forces françaises, combattant du général de Gaulle en 1943 pour libérer le pays. Il est chef de char, libère la poche de Royan et frôle la mort à plusieurs reprises. Courageux, tétanisé de peur, ses cheveux blanchissent en quelques jours. Il sera décoré de la Croix de Guerre et de la médaille militaire, mais refusera de défiler sur les Champs-Élysées, estimant qu'il n'a fait que son devoir.
Alors, on ne va pas évoquer ce matin les artistes collabos, on les connaît. Rendons plutôt des hommages.
Ben oui, tout comme celui qui vient d'être enfin accordé à Joséphine Baker, fraîchement entrée au Panthéon, également héroïque tout au long de l'occupation. Tout comme Pierre Dac, l'inventeur de l'humour loufoque, qui rejoigna Radio Londres en 1943 après plusieurs arrestations, son véritable nom étant André Isaac. Écoutons un extrait du message de Pierre Dac à destination de Philippe Henriot, secrétaire d'État à la propagande de Vichy.
Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription. Elle sera ainsi libellée. Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français.
Quel courage. Ouais. Autre personnalité dont le public n'était pas toujours au parfum de leur héroïsme, le futur réalisateur du Cercle Rouge, Jean-Pierre Melville, qui participa au débarquement en Provence après avoir rejoint Londres. Lorsqu'il réalise en 1969 L'Armée des Ombres, plus grand film de tous les temps sur la résistance avec Lino Ventura, il sait de quoi il parle. Romain Gary également racontera toute sa guerre dans le best-seller La Promesse de l'Aube. Il faillit mourir 100 fois à bord de son avion de chasse dans lequel il occupait la place la plus dangereuse et c'est pourquoi il choisit son pseudonyme de Gary qui voulait dire « brûle » en russe.
Mathieu, il y a aussi ceux qui finalement n'en parlaient jamais.
Ben oui, tout comme Jean-Pierre Aumont, engagé dans les forces françaises libres, blessé deux fois, campagne de Tunisie, d'Italie et débarquement en Provence, excusez du peu. Et plus étonnamment, Jacques François, vous savez, spécialiste des rôles de bourgeois coincés, comme dans Le Père Noël est une ordure.
Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde.
Non, c'est clou.
Eh bah, bien, Jacques François, il fut à 24 ans au combat pour libérer l'Europe du nazisme et laissera une lettre retrouvée bien plus tard et qui en dit long sur ce qu'il a vu. Voilà un extrait. Ouvrez les guillemets. Vous devinez, vous qui me connaissez, que j'ai touché le fond, que j'ai dépassé les limites de la déception et de la tristesse. J'étais trop triste pour être encore triste. Je me fous de tout. Fermez les guillemets. Terminons donc par ces mots bouleversants et souvenons-nous des visages de ces héros, de leur bravoure, de leur absence de doute lorsqu'il a fallu sauver un pays que certains pensaient perdu.
Ne jamais oublier. Merci à vous Mathieu Alterman. À demain.
À demain.
Allez, dans 4 minutes, le journal de Guillaume Périllot. On va parler notamment du bac et des épreuves de spécialité reportées. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et vous le savez, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci infiniment. Europe Matin Week-end, il est 7h30 et le journal vous est présenté par Guillaume Périllot. Bonjour Guillaume.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de ce journal, le report des épreuves de spécialité du baccalauréat de la mi-mars. Elles sont décalées à la mi-mai. Une décision saluée par le principal syndicat du secondaire.
Psychodrame au Rassemblement National. Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, penche pour Éric Zemmour. Elle ne soutiendra pas la présidente du RN pour la présidentielle.
La déception des handballeurs français, les Bleus manquent de peu la finale européenne. Défaite hier face à la Suède, 34-33. Réaction du capitaine dans ce journal.
Au sommaire de la prochaine demi-heure, à 7h40, la photo de Paris Match, celle de Céline Dion qui inquiète. Et puis à 8h10, par ici les sorties avec Laurie Choleva, Stéphanie Loire et les livres de Nicolas Carreau. Mais avant cela, la tendance météo, Valérie Darmon.
Un temps calme et similaire à celui de toute la semaine. De faibles pluies qui s'enfoncent sur le nord et dans l'est, le soleil qui résiste au sud et des maximales en légère hausse entre 3 à Dijon et 18 à Perpignan.
Le détail météo dans 7 minutes. Les épreuves de spécialité du baccalauréat sont donc reportées de 2 mois.
Oui, pour cause de Covid-19, après plusieurs semaines de concertation, Jean-Michel Blanquer a tranché. Les épreuves de spécialité du bac prévues mi-mars sont décalées au 11, 12 et 13 mai. Céline Géraud.
Effectivement, les élèves de terminale auront plus de temps pour préparer ces épreuves qui comptent à 32% dans la note finale. Petit bonus, les journées des 9 et 10 mai seront entièrement réservées aux révisions. Pour le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, cette décision s'inscrit dans une stratégie d'apaisement.
Dans cette période où nous réussissons à maintenir les établissements ouverts, ce qui est très important, c'est de leur permettre de tout simplement acquérir plus de connaissances dans des circonstances sereines. Uniquement de l'accompagnement en profondeur qui leur permet, je l'espère pour le maximum, de réussir leur diplôme et de se préparer à leur avenir.
Conséquence de ce report, les modalités de Parcoursup sont aménagées. Ce dispositif qui gère l'affectation post-bac est clôturé le 7 avril. Faute d'examen en mars, eh bien ce sont les moyennes des notes obtenues en première et les deux trimestres de terminale qui seront prises en compte. Enfin, dernier aménagement pour les élèves de première qui passent le bac français, le nombre de textes à présenter à l'oral fin mai sera réduit de 20 à 16.
Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1. La politique à présent, Marion Maréchal penche pour Éric Zemmour, un coup dur pour la présidente du RN Marine Le Pen.
Et le ralliement n'est pas encore officiellement sur la table, mais l'ancienne Benjamine de l'Assemblée nationale a d'ores et déjà déclaré qu'elle ne soutiendrait pas la candidature de sa tante. Victor Chabert, vous suiviez Éric Zemmour en déplacement hier en Sologne. Dans son équipe, on ne s'attendait pas à ce coup de théâtre.
En effet, cela s'est senti à l'humeur de l'équipe de campagne d'Éric Zemmour, enjouée mais évasive sur un possible ralliement de Marion Maréchal. Le candidat s'est exprimé dès son arrivée dans une exploitation agricole.
Si vous voulez savoir ce que je pense de cette semaine, je vous dirais que c'est une belle semaine. Maintenant, pour vous répondre sur Marion Maréchal, qui vivra ? Verra.
Dans le camp d'Éric Zemmour, on soupçonne l'entourage de Marine Le Pen d'avoir fait pression pour que Marion Maréchal déclare ses intentions. Selon un cadre, cela pourrait être une façon pour le RN d'anticiper le choc potentiel d'un ralliement de la nièce de Marine Le Pen à Reconquête. Un ralliement qui serait arrivé bien plus tard, selon plusieurs stratèges. Mais il reste dubitatif face au feuilleton qui est en train de se créer et autour de l'image que donnerait de possibles trahisons familiales. Même si elle est en retrait du RN, Marion Maréchal représente une ligne conservatrice identitaire dont certains estiment qu'elle a été maltraitée par Marine Le Pen au sein de son parti ces derniers temps. Le risque pour la candidate, c'est que les tenants de cette ligne soient tentés, eux aussi, de rejoindre Éric Zemmour.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1. De son côté, Valérie Pécresse était hier en déplacement à Oyonnax.
Oui, la candidate Les Républicains veut passer à l'offensive. Elle propose que les agressions des maires, pompiers ou policiers soient punies d'un an de prison ferme. Au minimum. L'actualité politique de ce samedi, c'est notamment le programme dévoilé de Yannick Jadot. Le candidat d'Europe Écologie Les Verts tiendra meeting à Lyon cet après-midi. Un programme centré sur la lutte contre le réchauffement climatique avec une devise: réparer, protéger, préparer.
À l'étranger, la situation en Ukraine inquiète toujours la communauté internationale.
Le pays craint une invasion russe. Le président américain Joe Biden annonce désormais l'envoi de troupes en Europe de l'Est. À Emmanuel Macron hier, Vladimir Poutine, le président russe, assure pourtant n'avoir aucune intention offensive.
Une idée de sortie pour ce week-end, un grand festival de musique classique français qui se tient en ce moment à Nantes.
Il s'agit de la Folle Journée de Nantes, consacrée cette année à Schubert. 190 concerts en 4 jours, des dizaines de musiciens. Un homme a passé toute sa vie auprès d'eux. Il est accordeur de piano et Lord d'Autriche l'a rencontré.
Dans le métier, tout le monde l'appelle le faiseur de miracles. Il a accordé les pianos d'Elton John, du groupe Queen, de Martha Argerich. Il n'a parfois que 20 minutes pour accorder un piano, parfois 5 heures. C'est un homme discret et indispensable pour les artistes. La magie, c'est que Dennis de Winter est capable d'accorder l'instrument en fonction de la personnalité du pianiste.
Quand il arrive sur la scène, il se trouve devant l'instrument qu'il ne connaît pas. Mon but, c'est qu'il est plutôt inspiré par l'instrument qu'il va avoir. Et je vais les rendre uniques. C'est l'équilibre entre les basses, les aigus, dans l'acoustique. Hein. L'acoustique, c'est très important aussi. Et je vais tout faire pour que le pianiste puisse se produire au mieux. Et qui va donner une interprétation qui est la sienne et qui va raconter une autre histoire. Et le piano peut aider à faire cette autre histoire.
Les jeunes pianistes en particulier cherchent à se différencier des autres dans le son pour donner une interprétation unique d'œuvres de Chopin ou Schubert qui ont été jouées des millions de fois.
Que c'est beau. Lors d'Autriche, la Folle Journée de Nantes, c'est jusqu'à demain. Le sport, une grande déception pour les handballeurs français. Les Bleus se sont inclinés face à la Suède hier soir.
On a une défaite rageante, 34 à 33. Les Bleus, champions olympiques à Tokyo, sont privés de finale européenne. Écoutez la réaction de Valentin Porte, le capitaine de l'équipe.
Bah, ça fait mal, hein. Vu la physionomie du match, ça fait mal. Évidemment, ça n'a pas été notre meilleur match en défense. On prend beaucoup trop de buts. Ce que je retiens, c'est déjà mon erreur à la fin. Je prends un carton rouge et je lâche l'équipe au moment où on est bien et ça fait mal. Et derrière, je suis vraiment déçu pour les gars parce qu'on donne tout ce qu'on a et en une minute, on a failli faire le retard et arracher une prolongation. Honnêtement, je ne sais pas, je suis loin, mais j'ai l'impression qu'on peut avoir un petit pénalty à la fin. Je ne sais pas, il faudrait revoir. Mais je suis déçu parce qu'on méritait quand même, avec ce qu'on a montré en deuxième mi-temps, d'aller chercher au moins une prolongation pour continuer à espérer.
Voilà, Valentin Porte, capitaine de l'équipe de France de handball. En football, Nantes s'est imposé 2-0 contre Brest hier soir en huitième de finale de la Coupe de France. Les Canaris sont ainsi les premiers qualifiés pour le prochain tour. Et ce soir à 21h suite des huitièmes de finale, l'Olympique de Marseille reçoit Montpellier. Match à suivre, évidemment, en direct intégral dans Europe 1 Sport.
Avec toute l'équipe, bien sûr, de Lionel Rosso. C'était le journal de Guillaume Périlou. Merci, Guillaume. Alors, le temps de votre samedi, Valérie Darmon, humide au nord.
Effectivement, le ciel de la moitié nord qui est toujours très nuageux, à couvert toute la journée. On a quelques pluies qui circulent depuis ce matin et jusqu'à ce soir d'ailleurs, de la Normandie aux Vosges et puis à la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au nord de l'Auvergne. Elles sont très faibles, mais elles prennent localement un caractère verglaçant, notamment sur les hauteurs des Vosges. Et donc, cette grisaille qui ne va pas se morceler aujourd'hui.
Bon, et le soleil, il est où ? Il est où ?
Il est où ? Il est où ? Il est où ? Alors, on a déjà quelques éclaircies qui vont résister. Une petite poche, là, du sud de l'Alsace au Jura. Dans le sud-ouest, il faut patienter un petit peu. Le début de journée est un petit peu gris, mais les éclaircies vont se développer ensuite. Des Pyrénées à la Méditerranée, au sud du Massif central, aux Alpes. Là, vous profitez du soleil d'hiver qui continue de l'emporter depuis le début de la semaine, dont le symbole, d'ailleurs, est le mimosa. Et à Mont-de-Lieu, la Napoule, à la forêt de Mimosa la plus grande d'Europe, ouais. Eh bien, c'est tout jaune en ce moment. Bah, et cet après-midi, il fera 14 degrés.
Et plutôt que d'habitude, hein, paraît-il.
Plutôt que d'habitude. Mmh. Il est magnifique. Et donc, il fera 14 cet après-midi sur ces régions de la Côte d'Azur. 12 à Caen, Saint-Brieuc, Évreux ainsi que Rennes. 9 à Angoulême, à Blois et Orléans. Et 5 degrés à Saint-Étienne, à Agen et à Lyon.
Merci beaucoup Valérie Darmon. 7h38 sur Europe 1. La photo de Paris Match tous les samedis matins avec la patronne de la rédaction. Bonjour Caroline Mangez.
Bonjour Thierry.
Alors on s'arrête ce matin, page 70-71. Céline Dion, la photo qui inquiète où on voit la chanteuse amaigrie. Hein.
Qui nous inquiète parce qu'on voit la chanteuse telle qu'on ne l'a jamais vue, c'est-à-dire cheveux blancs. Mmh. Les cheveux pas teints, ce qui n'est pas du tout son genre, parce qu'elle est plutôt très apprêtée.
Très apprêtée, oui.
Les yeux cernés, aucun maquillage. On n'a jamais vu Céline démaquillée depuis 25 ans ou 30 ans, sa jeunesse. Et donc, c'est une photo qui a été prise 5 jours après qu'elle ait posté sur
le
Instagram.
19 janvier.
Le 14. Alors, la photo est prise le 19 janvier, mais le 14 janvier, à l'anniversaire de la mort de René, son mari, chéri. Elle poste une phrase qui émeut ses fans et qui met un peu la puce à l'oreille. Elle dit « Je mentirais si je disais que je vais bien ».
Et elle a annulé, on le sait, sa tournée américaine.
Elle avait déjà annulé tous ses shows à Las Vegas. Et puis, elle vient d'annuler sa tournée américaine qui avait été reportée à l'automne. Elle a prévu une tournée européenne qui, pour l'instant,
est maintenue
et devrait commencer le 25 mai à Birmingham,
Caroline,
au Royaume-Uni.
C'est quoi ? C'est un burn-out ? C'est une maladie ? Qu'est-ce qu'elle a ?
Alors, les rumeurs vont bon train.
Hein.
Nous, on avait parlé à sa sœur Claudette qui l'a refusé de nous répondre au téléphone et elle nous avait dit « Elle danse comme une folle, elle a tiré sur la corde, elle a 53 ans et sa sœur nous avait même parlé de la ménopause en disant que son corps avait lâché, avait dit stop ». Aujourd'hui, il y a des rumeurs qui parlent de maladie neurologique. Il paraît qu'elle est branlante quand elle avance et qu'elle arrive à peine à marcher.
Ouais.
Le jour où a été prise cette photo, elle est quand même sortie d'une voiture pour aller chercher ses deux jumeaux, Eddie et Nelson.
Justement, on la voit avec ses deux fils. C'est ça qui la tient debout aujourd'hui, finalement.
C'est ce qui la tient debout. Elle vit seule avec eux et sa sœur, une de ses sœurs, dans cette espèce de quartier bunkerisé à une demi-heure de Las Vegas. Elle sort maintenant en voiture banalisée pour être très discrète. On ne sait même pas si ça la tient vraiment debout, puisque je crois qu'elle a des difficultés à marcher.
Les photos de Céline Dion, c'est dans Match cette semaine avec le regretté Gaspard Ulliel en couverture. Merci Caroline, bon samedi.
Bon samedi Thierry.
Et puis dans la presse ce matin, la primaire populaire bouscule les partis de gauche, c'est la une du Figaro. Le Parisien qui est à Kaboul avec les fillettes sacrifiées par les talibans. Et puis l'équipe titre Malheureux, les Bleus malheureux après leur défaite bien sûr hier soir en Andes face à la Suède. Restez avec nous, c'est samedi, c'est par ici les sorties. Laurie, Stéphanie et Nicolas, dans un instant, c'est la matinale week-end sur Europe 1. On parle de vous, 8h20 passé. À tout de suite.
Réveillez-vous.
Informez-vous.
Avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
Et à 8h15 le samedi matin, on fait le plein d'idées pour votre week-end. C'est par ici les sorties. Laurie, Stéphanie et Nicolas, bonjour.
Bonjour
Thierry, bonjour à tous.
Le cinéma d'abord avec Laurie Choleva. Ce matin, Laurie, vous nous conseillez un huis clos dans un bistrot parisien signé Édouard Baer.
Exactement, Édouard Baer qui vous invite à déjeuner à la table de François Damiens, Benoît Poulvorde, il y a les deux.
Ça donne.
Gérard Depardieu, Pierre
Arditi. J'ai visualisé le concept des deux fusionnés.
C'est ça. Ah mais le casting est absolument énorme. Jackie Berroyer, Bernard Lecoq, Bernard Murat, Daniel Prévost ou encore Jean-François Stévenin. Donc vraiment... Ça ne se refuse pas ce déjeuner, c'est le quatrième film d'Edouard Baer.
J'imagine le tournage, ça a dû être dingue.
Ça dû, c'était express, en fait, il explique Edouard. Oui. Et c'est vrai que les répliques fusent, en fait, puisque c'est un déjeuner catastrophe, c'est le repas annuel de 8 légendes de la vie parisienne. Alors, bon, au menu d'Adieu Paris, parce que c'est le titre du film que je ne vous avais toujours pas donné, plus de poireaux vinaigrettes malheureusement, mais donc des retrouvailles, des engueulades, des faux-semblants, de la rigolade entre vieux potes, qui est un déjeuner qui va être perturbé par la venue de Benoît Poulvorde, qui joue son propre rôle et qui est un peu intrus.
Janvier 2022. Après tous ces mois forcés à partager tous ces repas en famille, venez déjeuner avec des légendes de la vie parisienne.
C'est une vieille tradition ancestrale, ça fait 20 ans qu'ils font ce déjeuner.
C'est toujours agréable de louper le début.
Je sais même pas comment t'as le culot de te présenter ici aujourd'hui après ce qui s'est passé.
Je le disais, un tournage qui a été très rapide, 15 jours seulement pour cette comédie, un brin mélancolique mais qui va vous séduire à coup sûr, qui est quand même très très drôle. C'est une réflexion sur le temps qui passe, sur l'amitié, sur la vie.
Allez, on
vraiment, je vous le recommande. Allez, merci.
Laurie, autre film, une célèbre actrice passe derrière la caméra.
Sandrine Kiberlin qui est passée donc derrière la caméra, elle a bien fait. Le film s'appelle Une jeune fille qui va bien et c'est son premier donc long métrage. Il est absolument parfait de bout en bout. C'est l'histoire d'Irène dont on tombe amoureux dès les premières secondes, d'une jeune femme juive de 19 ans dans un Paris occupé en 1942 qui prépare le concours du conservatoire, qui vit son premier amour, qui se dispute avec son frère, qui passe de bons moments avec sa grand-mère rebelle. Bref, qui va bien, en tout cas qui fait tout pour aller bien.
À quoi songez-vous donc en me considérant si fort ?
Je songe que vous embellissez tous les jours.
Mais ça veut dire quoi, ça ?
Que la mention juive devrait être apposée à l'encre rouge sur nos cartes d'identité.
À quel âge t'as couché pour la première fois ?
Tu m'agaces avec tes questions. Va te coucher, la vedette.
Amusez-vous.
Le film est vraiment porté par l'interprétation époustouflante de cette actrice Rebecca Marder, pensionnaire de la Comédie française dont on va énormément entendre parler. Et puis surtout, c'est vrai, c'est un film avec en toile de fond l'occupation, mais profondément lumineux, qui permet à Sandrine Kiberlin de se raconter, de parler de sa propre famille, de sa propre expérience, avec cette question, comment profiter de ce que nous offre la vie lorsque tout s'effondre ?
C'est votre coup de cœur.
C'est mon gros coup de cœur.
Merci Laurie. Nicolas, un roman pour ce week-end, pas n'importe lequel, le nouveau Pierre Lemaitre, il est sorti cette semaine.
Et oui, on l'avait laissé Pierre Lemaitre avec le dernier tome de sa trilogie, commencée par Au revoir là-haut, qui lui a valu le prix Goncourt, tout le monde se souvient. Il revient cette semaine
avec... Et merveilleux film aussi.
Merveilleux film également, très belle adaptation. Avec Grand Monde, chez son nouvel éditeur, Calman Levy. Le Grand Monde, c'est le premier tome d'une tétralogie, donc 4. Ça commence en 1948, c'est une saga familiale, mais non plus dans l'entre-deux-guerres, mais au début des Trente Glorieuses, on est à Beyrouth, au tout début, et on rencontre monsieur et madame Pelletier. Lui, c'est Louis, le père de famille, qui est très fier de sa fabrique de savon florissante, et elle est effondrée. Parce que ses enfants partent à l'aventure les uns après les autres, François, Jean, Étienne et Hélène.
Et ils partent où alors ?
Ah, ça dépend, mais au départ à Paris pour les études, chacun de leurs destins nous emmène sur une piste différente. Étienne est en Indochine où il va malgré lui mettre à jour un scandale. C'est une sorte de lanceur d'alerte avant la lettre.
Ouais.
François veut devenir journaliste à Paris au moment où la presse entame sa montée en puissance, son âge d'or, vous vous souvenez Thierry ? Avec ce que ça comporte de danger. Jean, lui, est marié à Geneviève, une femme redoutable, et il mène une vie après tranquille, mais beaucoup plus complexe qu'il en a l'air, celui-là. Et enfin, la discrète Hélène, qui, elle, va se révéler.
La question, vous avez aimé ou pas ?
Franchement, c'est du grand Pierre Lemaitre. Alors, il brosse le portrait d'une époque, comme dans sa trilogie précédente, ça d'accord, mais il invoque aussi toutes les flèches de son arc, c'est-à-dire qu'il utilise les armes du polar, qu'il connaît bien, mais aussi les techniques du feuilleton 19e. Il y a de l'action, des rebondissements, des surprises, mais aussi une vision sociale. On sent très fort l'influence des Dumas, Zola, Balzac et autres Victor Hugo. Et puis, c'est très drôle, souvent par petites touches sans tout tourner en dérision, mais il détend avec l'humour, il désamorce. Le grand monde est aussi un roman monde.
Le conseil et lecture de Nicolas Caro, Le grand monde donc de Pierre Lemaitre. Merci beaucoup à vous Nicolas. Un arrêt au stand et la musique avec Stéphanie dans un instant.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
7h49, l'essentiel de l'info à Guillaume Périlou.
À Paris, une femme a été retrouvée morte à son domicile et son compagnon policier est recherché. Le fonctionnaire ne s'est pas présenté à son travail en Seine-Saint-Denis hier. Il est considéré en fuite. Dans l'actualité politique, une quasi-rupture, celle de Marion Maréchal et de Marine Le Pen. L'ancienne benjamine du parti à l'Assemblée nationale penche désormais, dit-elle, pour Éric Zemmour. Elle ne soutiendra pas sa tante à l'élection présidentielle. Les épreuves de spécialité du baccalauréat sont reportées. Elles devaient se tenir mi-mars. Elles auront lieu finalement au milieu du mois de mai. Un report pour permettre à tout le monde, y compris les élèves qui ont été malades, de le préparer sereinement, dit le gouvernement. Une décision saluée par le principal syndicat des enseignements du secondaire. Aux États-Unis, une femme porte plainte au civil contre le chanteur Chris Brown. Elle l'accuse de l'avoir drogué et violé à la fin de l'année 2020. Elle demande 20 millions de dollars de dommages et intérêts. Et puis en sport, il y a cette déception des Bleus en handball, sortie par la Suède 34-33 aux portes de la finale européenne. En football, Nantes s'est imposé hier 2-0 contre Brest en 8e de finale de la Coupe de France. Et ce soir, eh bien l'OM reçoit Montpellier, match à suivre en direct intégral dans Europe 1 Sport.
Merci Guillaume, à tout à l'heure. Dans un instant, on retrouve Laurie, Stéphanie et Nicolas par ici, les sorties. Deuxième partie, on revient tout de suite sur Europe 1.